Alors, Shavua Tov à toutes et à tous. Donc, on va essayer de réfléchir un petit peu, si vous voulez, sur ce thème. Vous savez que c'est une mara, en fait, dans Souka. Bonsoir. Dav Kaf E. C'est une souga de la Gemara qui est connue. Vous savez que ma mitzvah, pas tout, mais la mitzvah. Celui qui est occupé à une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. On pouvait bien l'étudier là-bas. Il y a beaucoup de mefarshim. Bon, Hachem, déjà au niveau du pshat. Mais on va essayer de le prendre plutôt dans une manière de Hashkafa, plus de pensée juive. Donc celui qui occupait une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Donc le cas simple, c'est que si quelqu'un a commencé à faire une mitzvah, il se présente une deuxième mitzvah, alors la Torah elle dit qu'il est patour, il est exempté. Non, c'est-à-dire quoi patour? C'est-à-dire quoi patour? Maintenant, quelqu'un, il aime les mitzvot. Il va en faire une, il va en faire deux, il va en faire quatre à la fois, c'est pas grave. Parce que la Torah elle vient, elle dit non, au sec, ma mitzvah, celui qui occupait une mitzvah, il est patour d'en faire une deuxième. Là-bas, il y a tous les limoudim, tout le développement de la Gemara. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la définition que la Gemara, elle donne de Osek Bamizva. Alors, dans le développement de la page là-bas, elle donne trois choses. Osek, en tant que le plus simple à comprendre, Osek Beyadaim, quelqu'un qui est occupé physiquement. Maintenant, il est en train de faire la shrita, il est en train d'écrire la mezouza, il est en train de visser la mezouza, et là, il est Osek Bamizva. Celui-là, ça s'appelle vraiment qu'il est Osek, qu'il est occupé physiquement à la mitzvah. Et on vient, on dit, patour, il est exempté. Deuxième, c'est quoi, hein? Osek Be'alicha, parce qu'on apprend de ouvrir Techa Baderer, quand quelqu'un il marche sur le chemin d'une mitzvah, bien qu'au moment même, il n'est pas en train de faire la mitzvah, mais il va pour faire une mitzvah, la Torah elle dit déjà, ça s'appelle Osek Bamitzvah, Patur Mina Mitzvah. Le fait même d'aller, d'être sur le chemin qui va t'amener, bien qu'on aurait pu croire qu'au moment où tu le fais, c'est du chol, qui est l'etzorech mitzvah, qui est pour une mitzvah, à ce moment-là, on aurait pu croire que c'est du chol, la Torah elle te dit un chidouche, que ça s'appelle déjà Osek Bamitzvah, Patur Mina Mitzvah, il est déjà occupé à une mitzvah, et ça l'exempte d'une mitzvah qui se présente. Troisième niveau, c'est quoi? C'est Tarut ben mitzvah. Celui qui est préoccupé. Alors, il n'est pas occupé, il est préoccupé. C'est l'occupation d'avant, c'est-à-dire dans la tête déjà. Bon, la Gemara, elle apprend du Khatan. Elle dit que le Khatan, comme il est préoccupé par la mitzvah du premier soir du mariage, donc il va être patour du Kriyat Shema, par exemple. D'accord? Maintenant, encore une fois, c'est quoi? C'est pas le fait que quelqu'un soit occupé ou quelqu'un qui ait des soucis, même si quelqu'un il vient de perdre un milliard d'euros et c'est l'heure de faire le Kriyat Shema, il doit faire le Kriyat Shema. Il dit pas j'ai pas la tête, c'est pas mon problème. C'est seulement le Geder, le principe de mitzvah qui existe dans la première mitzvah qui est exempte de la deuxième mitzvah. C'est la mitzvah qui rend exempte de la deuxième mitzvah. Maintenant, le chidouche c'est quoi? C'est que même la pensée d'une première mitzvah, elle peut exempter d'une autre mitzvah. Alors maintenant, quand on dit Osek ma mitzvah, c'est lui qui est occupé. Encore une fois, quand quelqu'un il est occupé physiquement, on n'a pas du mal à comprendre ce que ça veut dire. Occupé pour aller, ça c'est un peu plus compliqué. Maintenant, quelqu'un, encore une fois, il fait rien maintenant. Il marche pour aller à étudier la Torah. Bon, il marche. Il pourrait faire une deuxième mitzvah. Oui. Ou quelqu'un, il marche pour aller visiter son rav. C'est une mitzvah. Oui. Pendant la fête. Ou alors, il marche pour aller ramasser de l'argent pour payer une rançon pour un prisonnier. Donc, maintenant quand il est en train de marcher, on aurait pu croire qu'il est chayav des mitzvot, il est obligé de faire. Il dit non, puisqu'il est occupé à une mitzvah, il est exempté. Mais si on réfléchit bien, ces trois facettes de l'acte, en vérité, c'est dans tous les actes de la vie, on retrouve exactement les mêmes principes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait un acte, il a toujours une dimension présente, c'est-à-dire à l'instant T où tu es en train de le faire. Là, on peut dire que tu es en train de le faire. Ça s'appelle que tu fais ce que tu es en train de faire. C'est facile à faire. Après, il y a la préparation. Qu'est-ce qui fait qu'en général, tu fais ce que tu as à faire? Justement parce que tu t'es préparé à le faire. C'est-à-dire que toute la préparation que tu fais, toutes les préliminaires que tu mets en place pour pouvoir accomplir quelque chose, ils font partie de la chose. Quand tu vois un projet qui est établi, sache qu'il y a eu beaucoup de travail avant. Oui, quand tu vois un enfant, il y a eu beaucoup d'efforts fournis. Quand tu vois un couple, sache qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, ces choses-là, la Torah elle vient te dire ça fait partie de la mitzvah. Ça s'appelle aussi Osek Bamitzvah. Ne pas croire qu'un acte, il est vécu à l'instant T. Il est toujours T-1, T-2, T-3, des fois T-20 ans pour réussir à faire quelque chose. Et cette logique, c'est quoi? C'est comme si on disait, tu vois, pour avoir le train, hein, il ne faut pas venir à l'heure. Oui, il faut venir avant. Parce que quand tu viens à l'heure, eh ben le train, il est parti. Alors des fois, c'est le train qui part, des fois, c'est ta femme qui part, des fois, c'est ton fils qui part. Parce que tu es venu à l'heure. Enfin, fallait pas venir à l'heure, fallait venir avant. Quand il était encore là. Oui, ah, mais il m'énerve, il est petit, il ne comprend rien. De toute façon, c'est de sa faute, elle est folle, il est fou, qu'elle aille voir le psy. C'est comme tu veux. Mais le train, il va partir. C'est que la vie, c'est une grande gare. Il y a des centaines de trains. Et toi, tu montes dans le train. Maintenant, tu es sur le quai. Je lui parle ou je lui parle pas? Ben, elle est là devant toi, parle-lui. Oh, mais qui a dit que c'est de ma faute? Et qui a dit que c'est à moi de faire le premier pas? Eh ben, tu parleras avec l'avocat. Le train, il est là. Ton fils, il est là. Va, parle-lui. Oui, mais tu comprends, il m'énerve, il me pousse à bout et je suis très déçu de lui. Mais il est là. Un jour, il va partir. Quand il sera parti, tu vas parler au mur. Tu vas parler à sa photo. À qui tu vas parler? Ah, mais qui a dit que c'est à moi de faire le premier pas? Et puis avec mon père, ça s'est pas passé comme ça. Oui, mais tu as vu dans quel état tu es, toi? Oui, c'est vrai, effectivement. D'accord. Donc quelqu'un, il comprend. En vérité, la vie, c'est comme une gare. Et il y a plein de trains à prendre. Maintenant, pour arriver à prendre le train à l'heure, il faut toujours venir à l'avance. Ça, ça s'appelle déjà Osek Bamizva. Ça veut dire que les préliminaires, les choses que tu as fait pour être adapté, pour être conscient, pour être volontaire dans un acte, ils font partie de l'acte en eux-mêmes. Et la Torah, elle a dit Osek Bamizva s'appelle déjà Osek pour être patour. Après, il y a le troisième niveau. On a dit, c'est quoi? C'est Taroud. C'est-à-dire, quelqu'un, il est Taroud, mais Marshava, ta mitzvah. Il a la chose dans la tête. Alors ça, c'est une chose très importante, parce que malheureusement, on ne prend pas tellement le temps de réfléchir sur les textes qu'on voit couramment. Par exemple, il y a un texte qu'on dit tous les vendredis soirs dans les Chadodi, on dit « Sof ma'ase bemachashava techila ». La fin d'un acte, elle est dans la pensée au départ. Alors on a toujours l'idée, un peu simplette, de croire que ce qui va se finaliser à la fin, c'est ce qu'on a dans la tête au début. Donc au début on pense, il y a un concept, puis après on le réalise, ça devient un acte. Sauf ma'ase, mais machashava techila. Mais si on veut un petit peu approfondir, le mot machashava, il vient du verbe l'archov, qui veut dire réfléchir. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Alors je vous donne un secret. Ce qui va s'accomplir à la fin, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Ce que vous sentez la nuance. C'est pas évident la Dafina, tout ça, j'ai compris. D'accord, donc je reprends. Ce qui va s'accomplir, sauf ma'asé be machashava. Si dit que machashava, c'est pas prochev, c'est chashuv. C'est ce qui va s'accomplir à la fin. C'est pas ce que tu penses. Oui. C'est pas ce que tu penses devoir penser. C'est pas ce que tu penses qu'on devrait penser. C'est pas ce que tu penses qu'on t'a dit de penser. C'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce qui est chashuv. Ce qui est chashuv pour toi, c'est ça ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ça qui va s'accomplir. Par exemple, toi, tu penses que c'est important le bitachon. Mais tu as peur pour l'argent. Donc, ce qui va s'accomplir, c'est ta peur de l'argent. Ce n'est pas dans le bitachon. Parce que ça, c'est de la culture et ça, c'est ta pensée. C'est-à-dire le spectre, on va dire le spectre mental de ta personne, c'est ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est important le dialogue avec ta femme, alors parle. Oui, mais tu comprends, c'est difficile, qui a dit, c'est pas mon genre, ça me remet en cause. Alors, c'est pas important, c'est pas grave. Comprenez ou non? Parce que ce qui va s'accomplir, c'est ce qui est important. Quand tu as faim, c'est important, tu t'en fiches de tout, tu manges. Donc ça, c'est important, c'est clair. Alors maintenant, il faut s'habituer à penser que ce que tu penses, tu le penses. Ben oui. Non, il faut s'habituer à penser que tu penses ce que tu penses. Non, c'est pas évident. Comme quand on parle. Il faut que quand tu parles, tu parles. Et je dis, mais enfin, écoutez, quand je parle, je parle. Parce que quand je parle, je parle. Je dis, non. Il y avait un type comme ça, il avait un problème de couple. Bon, c'était le dernier, on l'a mis au musée de l'homme. Et je lui dis, écoute, ta femme souffre d'une anorexie sentimentale. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Je lui dis, c'est une maladie. Elle a perpétuellement besoin d'être rassurée sur l'intensité de tes sentiments. Alors, je lui dis, dis-lui que tu l'aimes. Je lui dis, bon, enfin, monsieur le rabbin, enfin, je lui dis. Non, je lui dis, mais dis-lui. J'arrête pas de lui dire. Non, mais dis-lui. Quand tu vas lui dire, elle va l'entendre. Mais si tu lui dis, ça sort de toi, tu fais du bruit avec ta bouche, tu fais du vent, tu fais. Non, c'est pas, ça veut pas que tu as parlé. Tu n'as pas parlé, là. Comme un enfant. Les gens disent, vous savez, mon fils ne m'écoute pas. Je dis, parle-lui. Je lui dis, écoutez, ça n'a aucun sens. Il m'écoute pas. Je lui dis qu'il m'écoute pas. Je dis, mais quand tu lui parles, il t'écoute. Parce que les gens qui s'entendent sont des gens qui s'écoutent. Quand on dit vous entendez bien, on n'est pas sourd. Hein. Ça veut dire quoi? Évidemment qu'on s'entend. Ça ne veut rien dire. Regardez les aveugles, par exemple. Ils ne peuvent pas se voir et pourtant ils s'entendent très bien. Alors, pourquoi vous rigolez? C'est très... ouais. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quand on dit on s'entend bien, on a compris. Ça veut dire non, mais on s'entend bien, c'est une image. Ça veut dire on est bien ensemble, on fonctionne bien, ça clique entre nous. D'accord. Mais parce qu'on s'écoute. Là, je vais vous dire un truc, hein, entre nous, hein, mais vous ne l'utilisez pas contre des gens que vous aimez. Hein, ça va? Comment vous savez si quelqu'un vous a écouté ou vous a pas écouté? Il dit, écoutez, il a les yeux ouverts. Non, quelqu'un peut dormir avec les yeux ouverts. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un, il me répond, donc il m'a entendu. Non, ça veut dire qu'il a de la mémoire. Ah oui. Comment tu sais si tu as écouté? Ben, c'est très simple. Si tu viens avec une angoisse, ouais, et que quand tu as fini d'en parler, tu te sens mieux, c'est que ton angoisse, elle était quelque part. Or, l'oreille, ah ben ouais. Mais si tu te sens exactement avec la même intensité de Ramma, c'est que l'autre, il n'a pas de réceptacle. L'oreille, c'est un réceptacle, c'est un bête qui boule. Il n'a pas réceptionné. Donc, il y a eu émission, mais il n'y a pas eu réception. Ça, quand on est quelqu'un, tu sais, il a une très bonne écoute, elle a une très bonne écoute. C'est pareil. Tu vas chez un sadique, tu lui parles. Pourquoi tu te sens mieux? Mais parce qu'il a pris sur lui. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? La question, c'est combien il peut prendre? Combien il reçoit? Toi, tu as un problème, il t'étouffe. Lui, il en reçoit 70 par jour. Je lui dis, mais c'est pour ça que la Gemara, elle dit, les tzadikim sont des misbeach. Misbeach à Paris, ils brûlent les corbanotes, ils brûlent. Quand tu viens, tu dis, mais enfin, j'avais mis un corban ici. Ah, il est brûlé. Le tzadik, il brûle. C'est ça, Avatazulat. Il aime les autres. Alors, il brûle pour l'autre. Ça veut dire que le problème, il a accepté, donc il a écouté. Donc, les gens qui s'écoutent sont des gens qui s'entendent. Donc, ça veut dire que c'est un exercice de savoir écouter. Eh bien, je vous le dis, pour vous, peut-être ça a l'air d'être un peu simpliste, mais même de parler, c'est un exercice. Il faut que quand tu parles, tu sens que tu parles. Par exemple, là, je vous parle. Ça me fatigue de vous parler parce que je mets de l'énergie dedans. Je mets de la conviction, j'essaie de penser, de croire ce que je fais. En plus, il y a la femme du Rav, c'est encore plus compliqué pour moi. Parce que je peux pas faire toutes les blagues que j'ai l'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas grave, je vais réussir si Dieu veut vous faire rire. Non, ça fait partie du projet quand même. Donc c'est quoi l'idée? C'est que j'essaie de vous dire quelque chose. Maintenant, ce cours, je l'ai fait. Il est usé, il est scotché, il est rebabé. Mais je ne vais pas vous dire le cours. Ce soir, je vais vous parler parce que ce temps-là, il est compté. Le bon Dieu, il le filme. À 120 ans, on va me dire, bon, qu'est-ce que ça fait avec cette soirée? Ben, si j'ai remis un CD que j'avais l'habitude de faire. On ne peut pas. Parce qu'un CD, ça va, mais des CD, c'est dangereux. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne... Au moment où elle parle, elle doit parler. Maintenant, quand moi je parle, j'espère que vous m'entendez. Comprenez ou non? Maintenant, pour que vous m'entendiez, il faut que moi, je parle. Maintenant, quand moi je parle, ça veut dire moi, je suis intéressé à ce que je dis. Maintenant, quand je suis intéressé à ce que je dis, je suis intéressant. Quand je suis intéressant, vous êtes intéressé. Ça varie, ma yotzi minalev, nirtnasim l'élève. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. C'est pas le cœur, quelqu'un qui parle avec son cœur. Il parle avec ses tripes. Non, ça, c'est Johnny Hallyday. Non, on parle de quelqu'un qui parle avec son cœur. C'est quoi son cœur? C'est-à-dire avec son intériorité. Il va chercher très, très loin à l'intérieur. Maintenant, le degré d'intériorité que vous allez mettre à l'intérieur de votre discours va générer un degré d'intériorité dans celui qui va l'écouter. C'est-à-dire que si toi, tu es bouleversé, l'autre, il est bouleversé. Oui. Si toi, tu as juste une émission d'un message intellectuellement bien cadré dans un charisme établi, donc l'autre, il entend un discours, il dit, bah, écoutez, c'était bien. Voilà, bah, c'est une soirée culturellement intéressante. Je veux dire, c'était mieux que le journal télévisé, c'était bien. On a une aventure intellectuelle et culturelle, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je dis, mais attends, mais il ne s'est rien passé à l'intérieur? Non. Pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que celui qui a émis le discours, il ne s'est rien passé. Comme il ne s'est rien passé, Tu me diras, bon, c'est pas grave, c'est une conférence, il y en a qui se marient comme ça. Et il ne s'est rien passé. Ah, c'est plus dangereux. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'émis et il n'y a rien de réceptionné. Il dit, cette logique, c'est quoi? Ça s'appelle parler. Bon, je sais que ça a l'air un peu évident comme ça. S'habituer à parler. Quand tu parles, tu parles. Quand tu es là, tu es là. Voilà, tu es assis, tu là, je suis avec toi. Maintenant, je vais parler avec toi. Je reste avec toi. Même si je dis rien, je suis avec toi. Il y a des gens, ils sont là, ils sont pas là. Ils sont présents, mais ils sont absents. Tu parles à quelqu'un, il dit, écoute, je te sens absent. Je dis, non, mais écoutez, je suis là. Toi, tu rentres, tu vas directement devant l'ordinateur. L'autre, il se met dans son truc, l'autre, il se met là-bas. Je dis, je sais pas, écoute, je te parle, je vois tes yeux qui fuient. T'es pas à l'aise, t'es stressé, tu es là, bon. Tu te reprends, tu... Ah oui, excuse-moi, de quoi on parlait je... Alors, t'es là ou t'es pas là? C'est-à-dire, même d'être là, t'es pas là. Pourquoi? Parce que c'est pas khashouf pour toi ce qu'on est en train de faire maintenant. Khashouf, ça veut dire important, ça veut dire c'est ce qui va te fixer. Et ce qui te fixe, c'est ce que tu es. Parce que le lieu de quelqu'un, l'espace de quelqu'un, c'est là où il est. Là où il est, c'est là où il est, lui. là où il est lui. Pas là où il est géographiquement, là où il est physiquement, là où il est lui. Maintenant, si on dit en français, oh, vous savez, j'avais la tête ailleurs. Mais c'est très dangereux d'avoir la tête ailleurs. Regardez par exemple la femme de Lot. Vous savez, on ne parle jamais de la sienne, on parle toujours de la femme de Lot, c'est toujours plus simple. Oui. La femme de Lot, elle sort de. Je sens que ça vous manque, hein, déjà. J'ai déjà des petites blagues comme ça, vous rigolez. Il y a quand même une espèce de carence. Alors, donc, c'est quoi l'idée? Détendez-vous, le pire est à venir. Donc, la femme de Lot, il explique très bien le Rav Dessler, si vous avez l'occasion de le voir avant de mourir, ça serait vraiment intéressant. Il explique là-bas, la femme de Lot, elle sort de Sdom. Maintenant, elle est prise entre deux, parce que d'un côté, elle se rappelle, enfin, de tous les plaisirs de Miami, de Sdom, et d'un autre côté, elle sait qu'elle rentre dans une voie qui est importante, qui est nécessaire, qui est fondamentale, qui s'appelle Avraham Avinu. Donc, dans sa tête, elle est partagée. Maintenant, le Ramban, il dit que, vous savez qu'elle est devenue en statut de sel. Pourquoi elle n'est pas devenue en statut de sucre, en chocolat? Bonne question, bravo. Donc, c'est simple. Parce que ce qui s'est passé là-bas, à Sdom, c'est qu'ils sont tous venus en sel. La mer morte, vous êtes au courant? D'accord. En fait, la mer morte, ce sont les sels minéraux, qui sont les résidus de tous les cadavres qui ont été transformés en sels minéraux. Ça donne des forces, mais enfin, il faut savoir dans quoi on trempe. D'accord. Donc maintenant, comme eux, ils étaient en train de devenir... Non, mais vous soumettez des corps vivants à de la chaleur et à du soufre, ça donne des sels minéraux. D'accord. Donc, eux, ils étaient là-bas en train de devenir des sels minéraux. Elle était ici. Maintenant, on n'est même pas obligé de penser, parce que la Torah, elle dit qu'elle s'est retournée, elle a regardé. On n'est même pas obligé de penser qu'elle a regardé. Elle n'est même pas obligé de penser qu'elle a vu. Parce que vu, si vous regardez là-bas le Malbim, comment il explique, d'après le niveau de la catastrophe, c'était presque nucléaire ce qui s'est passé. Parce que tout, c'est marqué toute la vallée, elle s'est retournée. Le Malbim, il dit, mais c'était un endroit verdoyant. Vous avez été à la mer morte. Il n'y a pas une plante, il n'y a pas un arbre, il n'y a même pas une feuille, il n'y a rien. C'est pas possible. Comment d'un truc verdoyant on peut faire la lune? Donc, c'est ce qui s'est passé là-bas, c'est extrêmement violent. Donc, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui était à 100 mètres, il a survécu. Donc, on peut imaginer qu'en fait, elle était à 4 km. Ouais. Et quand même, elle est devenue pareille. Pourquoi? Alors, il dit pourquoi, Rav Dessler? Parce que sa tête, elle était là-bas. Ça s'appelle la Marshava. Sa Marshava. Oui. Et il amène un Ramban là-bas, le Rav Dessler, il explique. Il dit la Marshava de quelqu'un, c'est ce qui le relie aux choses. Il dit, il amène à propos de Korach, que quand Korach il a fauté et qu'ensuite il est mort, alors après Moshe il a dit écartez-vous, même de leurs biens, même les biens de Korach et de tous ces gens-là, écartez-vous. Pourquoi? Et là-bas le Ramban il amène un truc incroyable, il dit bah avir, dans l'air il cholim amitbakim, des maladies qui se collent, oui, ktanim. C'est un peu la logique du microbe. Quand vous êtes dans un endroit par exemple qui est saturé de microbes, vous respirez des microbes, d'accord. Maintenant, la Torah vient avant Pasteur, elle a imaginé que la Touma, que la négation, que le mauvais esprit, c'est dans l'air. C'est comme si quelqu'un, une fois j'étais en province, ils m'ont dit, écoutez, Ravon Chetri, ça ne vous dérange pas, le prochain cours, on le fait dans une boîte de nuit. Il y a un type qui a une boîte de nuit, et ce soir-là, il n'en a pas besoin. Je dis, je ne peux pas faire un cours de Torah dans une boîte de nuit, je ne me sens pas. Pourquoi? Mais dans la Touma, il m'a dit, justement, on va sanctifier l'endroit. Je me dis, pourquoi pas dans une église? Il dit, non, écoutez, on fait une croix dessus et on avance. D'accord, donc je dis, non, c'est pas un endroit pour ça. Je peux pas faire un endroit, j'arrive pas à faire un cours là-bas. Je peux pas imaginer toute la Touma et en même temps faire un truc. Donc c'est quoi cette logique? Ça s'appelle Cholim Amitbakim. C'est des maladies qui se collent. Ne crois pas, tu vas chez des gens tordus par exemple. Tu respires un espace tordu, tu respires une atmosphère tordue. Oui, même la Gemara, elle dit, même le visage de Racha, il vaut pas le regarder. Parce que quelqu'un, il exprime quelque chose. Tu absorbes des énergies négatives. Le contraire, le visage du tzaddik, il faut le regarder. Tu prends des énergies positives. Tu vas au Kotel, tu regardes. Ouais, un paysage qui te plaît, tu le regardes. Il te donne des énergies positives. Tu regardes un endroit de mort, il te donne des énergies négatives. C'est normal. Donc ça s'appelle Cholim Amitbakim. Maintenant, comment tu as adhéré à cet endroit-là? En le regardant. Maintenant, c'est quoi le regard? Nous, on a l'habitude de penser que le regard, c'est fait pour voir. C'est une perception scientifique occidentale extrêmement proche de la nullité. En vérité, le regard, il n'est pas là pour regarder. Le regard, il est là pour adhérer. Les yeux, ça permet d'adhérer. Parce que même la Gemara, elle les appelle les ambassadeurs, les explorateurs. Si on dit vélo, tatourou, acharé, levafrem, vacharé, lechem. La Gemara dit les yeux, ils voient, oui, les yeux, ils voient, et le cœur, il convoite. Donc quelqu'un, il doit savoir que ses yeux, ce n'est pas des capteurs, ce n'est pas des caméras. En vérité, c'est des systèmes d'adhérence. C'est comme si je... Alors, le mur là-bas, il est là-bas, moi je suis ici, donc je suis loin du mur. En vérité, c'est faux. Parce qu'entre le mur et moi, il y a quoi? Il n'y a que de l'air. D'accord? Mais l'air, il touche mon œil, et l'air, il touche le mur. Donc moi, je touche le mur par le biais de l'air. Donc moi et le mur, on fait un. Maintenant, et mon œil, il est relié à ma pensée. Et ma pensée, c'est quoi? C'est ce que je suis. Et ce que je suis, ça me définit. Donc si la femme de Lot, elle a la tête dans Sdom, donc elle va subir le même sort qu'eux, elle devient celle. Et ça donne la maladie la plus grave, et malheureusement la plus répandue et la moins soignée, pour ceux qui ont fait un petit peu de la médecine appliquée à très haut niveau, médecin, le PDT. Ça vous dit quelque chose? PDT. En cancérologie, ça vous dit rien? Le PDT, non plus? Bah, c'est une maladie très très grave. Bah, ça s'appelle la prise de tête. Ne rigolez pas, c'est une des causes premières des plus graves maladies de la vie. C'est la prise de tête. Je sais qu'il y en a qui ont pensé à la pomme de terre. Je comprends. Mais c'est vrai que des fois, la vie, elle te met la tête comme une patate. Donc ça peut se rejoindre. Mais c'est quoi l'idée? La prise de tête, c'est une maladie. L'autre, sa belle-mère lui prend la tête. Elle fait un ulcère. L'autre, l'argent lui prend la tête. Eh bien, il fait des lumbagos. Lui, c'est son fils qui lui prend la tête. Il perd ses cheveux. Tu dis, mais enfin, écoutez, ça n'a aucun sens. Écoutez, enfin, comment c'est possible qu'un élément qui appartient au niveau du cerveau peut avoir des retombées au niveau physique? Mais baba, mais le physique, c'est que le symptôme. Ce qui apparaît, c'est quoi? C'est le dérèglement. Le dérèglement, il commence où? À la tête. La tête, c'est quoi? C'est la mahashava. La mahashava, c'est ce qui est khashuv. Donc, si c'est khashuv pour toi, fais attention, parce que si ça te prend la tête, ça te prend le corps. C'est pas une expression. C'est pas prise de tête comme ça, on dit, oh, vous savez, oh, il est vraiment prise de tête. Non, c'est dangereux. Quand ta tête, elle est prise, c'est dangereux. Parce que ta tête, elle définit le reste. Fais attention. Et vous allez dire, bah, écoutez, il y a des choses, on ne peut pas échapper. Bah, ça me prend la tête, ça me prend la tête. Alors, je vous donne un secret. Premier élément, première facette du secret de la réussite, il faut faire une différence entre la conscience et le souci. Il faut avoir conscience de la responsabilité de l'éducation des enfants. Mais il ne faut pas avoir le souci. Je ne sais pas si vous... Il faut avoir la conscience de l'argent. C'est important, l'argent. Oui, surtout pour votre mari. D'accord. C'est pas grave. Mais il ne faut pas avoir le souci de l'argent. Il faut avoir conscience du shalom bayit et d'être attentionné, d'être réfléchi, de faire comme il faut et d'être précis. C'est normal. Mais il ne faut pas avoir le souci. Pourquoi? Parce que le souci, c'est une connotation, on va dire psychiatrique, un malaise que tu associes à ton problème de conscience qui, lui, va te pourrir la santé. Il faut savoir faire la nuance. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Parce qu'on peut tout aborder, on peut tout accepter, on peut tout assumer. Mais tu n'es pas obligé de te rendre malade. C'est un niveau de conscience. Or, la conscience, en fin de compte, si on, entre nous, hein, parce qu'on est entre gens religieux, en fin de compte, la conscience, c'est tout ce qui reste d'un homme. Regardez, on va faire une expérience ensemble. Imaginez quelqu'un, Lohanenu, il a perdu ses deux bras dans un accident de voiture. Bon, on lui fait une greffe de deux bras. Maintenant, il a deux bras. Il se réveille. Alors, banque de peau, ses deux bras, ils ont été prélevés sur un serial killer qui avait étranglé 74 femmes. Il se réveille du coma. On lui a fait la greffe des deux bras. Il regarde ses deux bras. Alors, est-ce qu'il est la même personne avec deux autres bras ou il est quelqu'un d'autre? La même personne avec deux autres bras. Super. Bon, c'était un peu plus grave celui-là. Alors, Aleno, il avait un cancer généralisé. Tout était touché, sauf le cerveau. Le cerveau n'était pas touché par les métastases. Vite, qu'est-ce qu'on fait? On lui prélève le cerveau qui est encore sain. On le met à l'intérieur d'un autre corps qui vient de mourir d'un arrêt cardiaque, mais qui est en parfaite santé à part ça. Le type, il se réveille après 3 jours de coma. Donc, il a le même cerveau. Mais son corps n'est pas le même. En plus, aux urgences, on était un peu pris de vitesse. On lui a mis un corps de noir. Et lui, il est blanc. Et lui, il était raciste. Ouais. Blond et raciste. Et on lui a mis un corps d'entier. Alors, il se réveille, il appelle le médecin, il dit, mais enfin, ce n'est pas possible, là. Alors, le médecin lui dit, mais enfin, estimez-vous heureux, vous êtes entier. Vous êtes entier. Bon, c'est pas grave, d'accord. Bon. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, maintenant, si, encore une fois, au moment où il se réveille, est-ce qu'il est la même personne avec un autre corps ou est-ce qu'il est une autre personne? Il y a un temps de réponse quand même. Ben évidemment, c'est la même personne. Maintenant, imaginez, même le cerveau, il est malade. Allez-nous. Ouais, les métastases, elles sont rentrées dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? On lui branche vite, vite une clé USB ici. On lui prélève toute la mémoire depuis sa naissance jusqu'au jour de l'opération. Oui. Et on le met dans un autre corps sain. Et il se réveille au bout de 2 jours de coma. On l'a reformaté comme ça. Il a toute sa mémoire. Mais il voit que ce n'est pas son corps. Mais il se rappelle de tout. Vous voyez? C'est la même personne dans un autre corps ou c'est une autre personne? C'est encore la même personne. Imaginez celui-là, hein? Même sa mémoire, elle est malade. Laura Linou, il a fait des avérons tellement graves. Il a la tête qui est tellement sale de tout ce qu'il a fait comme bêtise. On peut pas lui remettre la même mémoire. Il va se suicider. Qu'est-ce qu'on fait? On garde juste la conscience. Et on remet la conscience dans un corps sain. Quand il se réveille, le type, est-ce que c'est la même personne? Il n'a aucune mémoire. Mais il a conscience. Est-ce que la même personne ou non? Super. Donc vous venez de découvrir qu'un homme, c'est ni ses bras, ni son corps, ni son cerveau, ni sa mémoire. C'est juste la conscience. C'est tout. La preuve, c'est que là-haut, à 120 ans, je m'excuse, pour ceux qui ont fait de la musculation, ou de la démaquillage, ou de la des Weight Watchers, et arrivé là-haut, vous savez qu'il n'y a pas de corps là-haut. Non, il faut le savoir. Non, parce que elle a fait déjà 19 opérations. Et là-haut, malgré tous les régimes que tu vas faire, c'est quand même les vers qui seront le plus efficaces. Alors, donc, il n'y a pas de corps là-haut. Il n'y a pas de corps. Donc, qu'est-ce qui va rester là-haut? Ouais, quelqu'un il va dire, il reste le cerveau. Non, le cerveau, il ne vient pas non plus. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la mémoire. Même la mémoire, on ne retient pas tout. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la conscience. C'est qu'en vérité, un homme, c'est une conscience. Et Olam Haba, c'est une conscience que Dieu existe. Et où là, ça devient un problème, c'est que le niveau de conscience que tu vas avoir de Dieu là-haut, il dépend du niveau de conscience que tu as ici, dans ce monde. Je ne sais pas si vous sentez. C'est que toute l'étude de la Torah, l'application des mitzvot, l'investissement, la reconnaissance, la compréhension, la sensibilisation, la Yirat Shamayim, tout ça, c'est pourquoi faire? C'est pour développer un niveau de conscience de Dieu qui soit tellement fort qu'il arrive à survivre au passage de la mort. Mais si, Haz v'shalom, quelqu'un, il a étudié la Torah, mais il n'a pas développé la conscience de Dieu. Ouais. Quelqu'un, il a fait des mitzvot, mais il n'a pas développé la conscience de Dieu. Ça apporte bonheur, ça fait du bien, ça aère les téfilines, tout ça, ouais. Il a mangé kasher, bon, c'est bien, c'est bon pour la santé. Il a été au mikvé, il faut bien se laver une fois par mois. Donc, ouais. Mais il n'a jamais fait avec un travail de prise de conscience, d'accord? Donc, il n'a pas imprimé dans sa conscience. Et sa conscience, c'est quoi? C'est sa mahashava. Et dans sa mahashava, c'est quoi? C'est ce qui est chashuv. Donc, Rabotai, si quelqu'un, c'est pas chashuv pour lui ce qu'il vit, qu'est-ce qui va rester plus tard? Comme a dit le professeur Wallo, pas grand-chose. Wallo, c'est un professeur. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pour comprendre ça, on a besoin d'un schéma, un machal que je ne sais pas si on a déjà utilisé ici. Comme je viens une fois par an, je n'arrive pas à me rappeler. Est-ce que vous vous rappelez du cercle avec le compas? Oui, non, oui, non, non. Ça va, comme ça, je n'ai pas le complexe de vous le répéter. Bien que si vous l'entendez deux fois, ce n'est pas très grave. Imaginez-vous que moi, j'assiste à tous mes cours. Bon. Donc, c'est quoi l'idée? Non, je pourrais me fatiguer. Alors, vous prenez un compas. Le compas, c'est l'outil le plus bidon, le plus débile qui existe. Vous avez deux pointes. Une pointe qui écrit, mais qui ne pointe pas. Et une pointe qui pointe, mais qui n'écrit pas. Ça va jusque-là au niveau abstraction? D'accord. Vous prenez une feuille de papier, on va appeler ça un espace de vie, et vous plantez le compas. Après que vous avez planté le compas, vous tracez le cercle. Facile? Super. Maintenant, le Maharal de Prague, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Qu'est-ce que c'est le cercle? En vérité, le cercle, tu sais, tu peux toujours le regarder comme un volume, ouais, comme une sphère, ou tu peux le regarder comme juste un trait sur une feuille. Maintenant, en fait, c'est quoi un cercle? C'est le périmètre du cercle, c'est ce qui apparaît du cercle. Et ce cercle-là, c'est quoi? C'est une droite dont les deux extrémités se rejoignent. Une droite, c'est quoi? C'est un ensemble de points. Vous arrivez à suivre là ou? Non, parce que la géométrie, en vérité, c'est beaucoup une symbolique de la Torah et entre les deux de la psychologie, vous allez voir. Donc maintenant, si on dit que ce qui apparaît du cercle, c'est seulement cette droite et que la droite, c'est un ensemble de points, qu'est-ce que c'est ces points? Ce que tu fais, tous tes actes, ce que tu dis, toutes tes paroles, toutes tes attitudes, c'est ce qui apparaît sur le point. En vérité, c'est ce qui apparaît de toi, c'est ton cercle à toi. Ça va? Maintenant, impossible de tracer le cercle si on n'a pas pointé le compas. Il faut pointer sur la feuille et ensuite tracer le cercle. Maintenant, tu peux agrandir le cercle, on appelle ça un cercle d'influence, il suffit de rallonger le bras. Maintenant, tu ne peux pas faire un cercle qui soit plus petit que la pointe du compas, c'est impossible. C'est-à-dire, tu ne peux pas être plus nul que ton potentiel, c'est impossible. C'est... Il y en a qui essayent, ils disent, ouais, je ne vaux rien. Quand même, il va être autour. Après, quand ce cercle-là, quand j'ai mis la pointe là et j'ai tracé ce cercle-là, vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas tracer ce cercle-là en mettant la pointe ici. Est-ce que c'est clair pour vous? Peut-être vous avez dit que peut-être il y a un moyen. Oui ou non? C'est clair pour vous? Non, est-ce que c'est très clair? C'est clair? Ça va. Non, c'est important que ce soit clair. C'est-à-dire que personne ne peut tracer votre cercle à votre place. Tu ne peux ni dire à cause de ou grâce à. C'est toi qui dois faire ton cercle. Tu ne peux pas dire à l'autre, allez, encourage-moi, aide-moi, tu pourrais m'aimer pour deux, tu pourrais investir. Non. Tu traces ton cercle. Ça, c'est un très grand rave marocain qui s'appelait Debrasque. Je ne sais pas s'il l'avait connu. Bon. Même ça, vous comprenez. Je vais parler carrément en arabe. Donc, c'est quoi l'idée? Débarrasque, ça veut dire débrouille ta tête, débrouille-toi. Débrassec pour les Tunisiens. En Ashkenaz, je vais avoir du mal. Bon, j'ai pas eu la chance de passer par un gilgoul Ashkenaz. Donc, écoutez. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais, restez calme. Donc, on a dit, on trace un cercle. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que vous avez appris à l'école que la distance entre la pointe du compas, donc le centre du cercle, et le périmètre est toujours la même. On appelle ça en français le rayon. Super. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand on enlève le compas, on ne voit plus le centre. On ne voit plus le centre. Ça s'appelle la traçabilité, ça s'appelle la trajectoire. Est-ce que tu es capable, quand tu dis quelque chose, de savoir pourquoi tu le dis? Parce que c'est là-bas la marche va. C'est ça le lève, c'est ça ce que les chamis appellent le cœur. Non, encore une fois, c'est pas le cœur des sentiments, c'est le centre, Merkaz à Adam, ouais, le Leftov. Vous regardez là-bas dans Mishnah dans Pirkei Avot, Leftov. Là-bas, il explique le Maharal de Prague. Il dit à lève, c'est Merkaz à Adam. Akol novea mi alev, tout dépend du cœur. Imalev nachon adeot nechonot. Maintenant, un homme toute sa vie construit son cœur. Mais encore une fois, pas le cœur des sentiments, le cœur du centre, comme le cœur de la ville ou le cœur du fruit, c'est l'intérieur. Maintenant, quand quelqu'un il a un cœur, c'est pour ça que le Rav Dessler il dit « Alev zeh metziut ». Le cœur, c'est la réalité. Pas l'extérieur, pas ce qu'on voit, pas ce qu'on montre, pas ce qu'on croit voir, pas ce qu'on croit comprendre, ce qu'on est vraiment. Il n'y a que la personne elle-même qui peut savoir au fond qu'est-ce qu'elle est. Et ça, c'est sa metziut. C'est ça, sa metziut. Nous, on fait l'inverse, nous. Nous, on croit que la metziut, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Dans la metziut, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que tu es vraiment. Et de là-bas, tout démarre. Donc, ce qui apparaît à l'extérieur sur ton cercle, ça ne peut être que l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, est-ce que tu arrives à faire la traçabilité? Est-ce que tu arrives à dire, je dis ça parce que je pense ça? Est-ce que je ressens ça? Maintenant, tu as envie de pleurer. Pourquoi tu as envie de pleurer? Mais écoute, je sais pas. Mais pourquoi tu as envie de pleurer? Je sais pas. C'est les règles, c'est les vacances, c'est l'argent, c'est quoi? Je sais pas. C'est pas normal. Moi, j'ai dit à des gens, hein, ne vous vexez pas, hein, à partir d'un certain âge, on ne peut plus dire sur une chose qui nous concerne, je ne sais pas. Ah ben non. Pourquoi tu as frappé ton fils? Franchement, tu me poses une question embarrassante. Non, il y a des questions. Est-ce que tu aimes ta femme? Je dis, bah écoute, a priori, ça fait quand même 24 ans que ça dure. Bah regarde le placard, ça fait 28 ans qu'il est accroché au mur. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui s'écrit entre eux. Il y a un petit côté meuble un peu comme ça, même si ça n'est pas commode. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que tu crois en Dieu? Je dis, bon, Hazel Shalom, on a notre Sim, s'il est nous, mais enfin. Et n'aie pas peur, il faut te la poser tous les jours la question. Tous les jours. Est-ce que tu crois en Dieu? Mais bien sûr que je crois. Mais enfin, écoutez, ça n'a pas ça. Mais grâce à Dieu, nous avons fait Teshuvah il y a déjà 21 ans. Nous assistons à des cours régulièrement, nous faisons Shabbat. Oui, j'ai compris. Mais quand il y a un problème d'argent, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, et la santé? Oh, je touche du bois. C'est quoi la croyance? C'est quoi la Emouna? J'ai encore écouté la Emouna, si je me rappelle bien la Emouna, la confiance, la croyance, je ne veux pas faire d'erreur. Non, c'est très simple. Vous prenez une basket. Ça se résume, tout se résume. Vous prenez une basket. Vous l'appuyez dans la terre. Quand vous la sortez de la terre, il y a l'empreinte de la basket. Ça va? Ce qu'on appelle une empreinte inversée. Donc la basket, elle a une forme et l'empreinte en a une autre. Maintenant, en fait, ce qui est creux dans la basket, ça donne un relief dans l'empreinte. Et ce qui est un relief dans la basket, ça donne un creux dans l'empreinte. Eh bien, la basket, c'est ta vie. La basket, c'est toi. Et l'empreinte, c'est ta vie. Maintenant, l'homogénéité entre toi et ta vie, c'est ce qu'on appelle en français la émouna. Donc, ce qui est un plus chez toi, c'est un moins chez ta femme. Les choses que tu dois régler, ça va être des exigences de tes enfants. Vous voyez cette homogénéité? D'accord? Donc, l'arparnassa que tu dois toucher, l'endroit où tu vas habiter, ton corps, ta manière d'absorber les lipides, tout ça, c'est toi. Maintenant, quand tu refuses ta réalité, il y a des gens qui te disent, écoutez, j'ai la émouna, mais écoutez, je me suis marié trop vite, les enfants, c'est pas du tout ce que j'attendais, la parnassa, c'est pas le métier que je voulais faire, mais ma mère voulait un docteur, j'ai fait docteur, ouais. Moi, je voulais être épicier, bon ben, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils n'acceptent pas leur vie. Mais comme tu n'acceptes pas, c'est d'abord un manque de émouna. Parce que peut-être toi, tu dors, mais le bon Dieu, il est réveillé. Non, il faut savoir, les gens. Vous savez, écoutez, bah, c'est pas vraiment ça. Bon, on fait avec. Tu fais avec. Mais JH2, c'est une formule chimique, ça veut dire je normal au carré. Oui. Et ta réalité, elle est adaptée à toi. Wow. Encore une fois, peut-être que toi, tu n'es pas adapté, mais le bon Dieu, lui, il est adapté, il ne se trompe pas. Donc, il t'a envoyé exactement la femme qu'il fallait. Tu me dis, c'est pas possible. Le pire du pire cauchemar que j'ai imaginé, je l'ai épousé. C'est normal, puisque le cauchemar, c'est quoi? Le cauchemar, c'est quoi? C'est la frustration. Donc, le défouloir de la frustration, c'est le cauchemar. Donc, tout ce que tu ne veux pas assumer, tu le vis en cauchemar. Donc, et tout ce que tu ne veux pas assumer, tu l'épouses pour être obligé de l'assumer. Donc, tu as épousé ton cauchemar. CQFD, ce que fait Dieu. D'accord? C'est insupportable. C'est pareil pour tes enfants. Génétiquement, tu leur as transmis tout ce que tu n'as pas réglé. Donc, qu'est-ce qui se développe devant toi? Ce que tu n'as pas réglé. C'est pour ça que les enfants, plus ils grandissent, plus ils sont insupportables. C'est normal, puisqu'ils nous ressemblent. Tu ne peux pas regarder ton fils et dire, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Il te dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Non, c'est un grand botaniste anglais. Il s'appelait De qui je me fiche, je ne l'ai pas connu. Il a dit, les poiriers font des poires, les pommiers font des pommes, les orangers font des oranges et les remariés. Les remariés font des remars. Tu dis, mais alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je suis un remar, je suis condamné à avoir des enfants remars. Mais non, tu as l'occasion de régler ton problème de remar avec le remar qu'on t'a envoyé. Ah bah oui, encore une fois, puisque les exercices que tu n'as pas voulu faire en tant que célibataire, tu les épouses. Et les exercices que tu n'as pas voulu faire en tant que conjoint, tu les accouches. C'est pour ça que vous remarquez, moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de personnes, je remarque que les problèmes d'éducation sont toujours liés à des problèmes de couple, qui eux-mêmes sont toujours liés à des problèmes personnels. Donc on reprend le film à l'envers. Les gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes personnels vont les épouser, puisque mes avgim, la dame, les filles marasav. Et tes actes, en vérité, c'est ton profil. Le profil de ton acte, c'est le cercle. Donc le profil de tes lacunes va donner le programme de rattrapage. Ça va? Et encore une fois, le bon Dieu, il ne se trompe pas. Il t'envoie avec une précision. Mais trop, elle me ressemble. Trop. Il s'appelait Samantha. En fait, elle s'appelait Samet, mais on l'appelait Samantha. D'accord. Et c'est ça le problème, c'est que tu épouses ce qui te ressemble. Maintenant, après, dans le Shalom Bayit, tu as deux solutions. Tu dois régler tes problèmes personnels plus tes problèmes de couple. Il y a des gens, non. Les problèmes personnels, ils pensent qu'ils sont parfaits. Les problèmes de couple, c'est la faute de l'autre. Super. Mais quand ils arrivent devant l'enfant, même le médecin leur dit, vous savez que cet enfant, il y a 50% de vous, 50% de vous, c'est le minimum. Puisqu'il y en a qui 50-50, il y en a qui 70-70, parce qu'il y a les 20% de la belle-mère qu'il faut inclure. On ne peut pas y échapper. Mais c'est quoi l'idée? C'est que j'ai en face de moi une invitation à grandir. C'est ça l'enfant. Ma femme, c'est pareil. Mon mari, c'est pareil. Et moi, c'est pareil. Maintenant, quelqu'un qui a l'habitude de se regarder dans une glace, d'accord, qui a compris que le moussard n'est pas une marque de moussard rasé, il a vraiment compris, ouais. Parce que les gens, ils font de la mousse avec de la mousse. Non. Le moussard, c'est de se regarder dans une glace avec le regard des Chazal. C'est ça le moussard. J'ai fait 5 fois le Messat Echarim, je dis bon, alors t'as arrêté de t'énerver? Non. Mais tu peux même te faire des infusions de Ochot Tzadikim. Tu peux même faire des râpés de Derech Hashem. Tu prends Derech Hashem, tu le râpes avec une sauce, tous les jours t'en manges. Mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de ségoula. Quand il faut travailler, il n'y a pas de ségoula. Mais les gens, ils aiment les ségoulottes. Tu leur dis, il faut travailler les midotes, il faut travailler les midotes. Ils disent, écoutez, je n'ai pas le temps, je suis quelqu'un de très occupé. Est-ce que vous n'auriez pas une ségoula? Comme ça, il va dire. Très, très nerveux, très coléreux. Écoutez, moi, je veux une ségoula. Comme c'est monsieur le rabbin, je suis un homme d'affaires, je n'ai pas que ça à faire. Vous me donnez 24 CD à écouter, un programme de travail, je n'ai pas la tête. Moi, vous me donnez une ségoula. Bon, une ségoula pour la colère. Donc, tu es insensible, c'est ça ton problème? Oui, je suis insensible. Elle me dit que je ne comprends pas, que je ne la ressens pas, que je ne la comprends pas. Si je vais donner un ségoula. Tu prends un pot en verre, tu verses à l'intérieur une huile de vidange d'un camion, tu rajoutes des excréments de chameau lyophilisés, bien sûr, mais cachers, faut trouver. Tu mélanges les deux et tu laisses pourrir pendant à peu près 6 mois. Au moment où tu sens que tu t'énerves et que tu cries sur ta femme et que tu vois sa tête qui change, et tu dis, mais quand même, j'aimerais bien comprendre ce qu'elle ressent. Eh bien, tu ouvres le pot, tu mets le doigt dedans, tu mets dans ta bouche, et tu comprends qu'en fin de compte, ce qu'elle ressent, c'est ce goût-là. C'est une ségoula. C'est... Pourquoi vous rigolez? Une femme, pareil, le contraire, parce que là, on tape sur les hommes, les femmes, c'est pareil. Une fois, ils sont venus en couple comme ça. La femme, elle s'est assise, je vous promets, hein, comme ça, elle s'est assise. Dès qu'elle s'est assise, on dirait qu'elle s'est assise sur un interrupteur. Je sais pas, elle s'est assise. Oui, je t'écoute, madame. Elle me dit, oui, on n'est pas contre. Est-ce qu'il va même. Elle me sort un dossier comme. J'écoutais, madame. Écoutez, madame, moi, je vous connais exactement depuis 7 secondes. Je suis déjà énervé. Alors, le zombie que vous avez amené avec vous, là. C'est votre mari, j'imagine, oui. Ça fait 14 ans qu'il subit ça. Mais comment il est vivant? Comment il est vivant? Il doit faire le halal tous les jours, c'est pas possible. Elle me dit, ah, vous avez pris parti. Vous êtes comme sa famille, tous la même race. Au bout d'un quart d'heure, j'ai réussi à la calmer, lui faire comprendre qu'elle avait un petit problème de nervosité. Elle m'a dit, comment, bon, j'ai compris, Rav, je parle trop, j'ai une bouche de feu, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, c'est très simple. Tous les matins, enfin, quand votre mari rentre à 8h, à 8h moins quart, vous buvez un litre d'huile, vous avalez une mèche de 80 cm, et dès qu'il rentre, vous la mettez en veilleuse. Et vous voulez une ségoula? Elle m'a dit, tout le monde va dire que je suis une allumée. Eh ben oui. Vous n'êtes pas loin du compte. Bon, il faudrait que j'attaque le cours, là, quand même. Hein. Donc, c'est quoi l'idée? Mais ça fait du bien, quand même. Vous voyez, ça. Bon, alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ah oui, le cercle. Si vous avez bien compris le cercle, on a dit, c'est quoi le cercle? La pointe du cercle et l'extérieur du cercle. Ce qui apparaît est la pointe. Maintenant, toute la vie, un homme, il cherche là-bas. Ouais. D'être capable de faire ce travail. C'est ça la connaissance. Parce qu'on parle de la connaissance de soi, de la maîtrise de soi, du respect de soi, de la cravate en soi, de la peinture sur soi. Mais personne ne définit les choses. Mais c'est quoi le respect de soi? C'est quoi le respect de soi? Alors, je te dis, il faut que tu ailles au plus profond de toi-même, que tu retrouves le contact avec cette personne qui est à l'intérieur. Parce qu'on a expliqué déjà ici plusieurs fois. La personne, elle est faite en plusieurs couches. Donc, la fin du corps, c'est le début du psychique. La fin du corps physique, c'est le début du psychique. Et la fin du psychique, c'est le début de l'âme. Maintenant, un homme, il comprend qu'il n'est pas son âme. Ce n'est pas grave, parce que l'âme, elle est divine. Un homme, il doit accepter qu'il n'est pas son corps. On a expliqué tout à l'heure que même avec une transplantation de corps, un type, il est encore lui-même. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le psychique. Après, dans le psychique, c'est très, très mouvementé, très habité, etc., les pulsions, les nerfs, la gava, la bêtise, la lourdeur. Maintenant qu'il a fait tout ce travail, il va arriver à la pointe du compas qui est plantée juste à la frontière entre la fin du psychique et le début de l'âme. C'est-à-dire l'endroit de l'impulsion première, de là d'où tout démarre, tout commence, tout vient d'ici, d'accord? Et c'est ça la pointe du compas. Il dit, maintenant cet endroit-là, c'est aussi le shoresh de la marshava, c'est aussi la racine de la pensée. Et donc c'est la racine de l'acte, puisqu'on on a dit qu'on ne fait que réaliser ce que l'on pense. Et ce que l'on pense, on a dit, c'est ce qui est important. Donc c'est ce qui te définit. C'est encore une fois, à chaque instant, tu sais qu'est-ce qui est important. Quelle est la place de l'argent, quelle est la place de la beauté, quelle est la place des nerfs, quelle est la place du rire, quelle est la place de la lumière. S'il y a des gens, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de la lumière. Tu dis, bon, on va habiter dans un sous-sol, c'est pas grave, mais si vous tenez fèche. Je dis, non, je vais mourir maintenant. Une personne, elle sait qu'elle a besoin de lumière, elle a besoin de lumière, elle se connaît. Elle dit, non, mais je vais réfléchir à ta place, je vais t'expliquer ta vie. Il faut arriver à ce niveau. Ça s'appelle Baal Bechira, que tu as quand même une connaissance de toi. Parce que les gens, ils confondent. Parce que les gens, quand quelqu'un te dit, par exemple, tu sais bien cuisiner. Alors tu peux dire, je suis une bonne cuisinière. Après tu dis, oh, pour qui tu te prends? Je dis, ben, je me prends pour moi. Tu sais cuisiner. Moi, je sais que je sais parler. Je sais. J'ai travaillé des milliers d'heures. J'ai fait des milliers de conférences. Je sais que je sais parler. Je le sais. Mais je ne dis pas, oh, mais, oh, tu te prends pour. C'est la gava. Non, la gava, c'est de croire que tu es plus grand que ce que tu es. Ou que tu es plus petit que ce que tu es. Vous savez, il explique le Nefesh HaChaim. Mais la connaissance de soi, c'est pas de la gava. Comment tu vas être efficace? Tu dis, comment tu prends ta voiture? Je sais conduire. Et qui t'a dit que tu sais conduire? Et si tu provoques un accident? Je sais conduire. Donc, quand on va être savoir, c'est faire le lien entre celui-là et celui-là. Donc, je sais ce que je dis, je sais ce que je pense ce que je pense, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis, je fais ce que je pense. Vous voyez, toujours de faire ce lien, les allers-retours entre toi et le centre de ton cercle. C'est très, très important. Encore une fois, les gens, ils passent la moitié de leur vie à chercher la pointe du compas. Qui je suis? Au fond, qu'est-ce que je veux? Vous comprenez ou non? L'autre, elle pousse au divorce, mais en vérité, elle adore son mari. Celle-là, elle veut maigrir, mais elle mange des bonbons en cachette. Celui-là, il veut gagner de l'argent, mais il se lève à 3 h de l'après-midi. Ah, tu viens. Enfin, un monsieur est venu. Mais monsieur le rabbin, vous trouvez ça normal? Une femme qui manque de respect, elle me traite de vaurien. Je dis, bon, à quelle occasion? Eh bien, écoutez, je me lève un peu tard. J'ai à quelle heure? Il me dit 4 heures. 4 heures du matin. Dis donc, 4 heures de l'après-midi. Je me coucherai tard. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à vérifier sur Internet, si tout marche bien. Après, je vais dormir. Je dis, alors, ben, je dis, votre femme, elle vous voit vous lever à 4 heures. Elle vous dit, t'es un vaurien. Ben, c'est toi qui t'es défini tout seul. Ah, tu dis oui, c'est un manque de respect. Mais c'est pas un manque de respect, c'est comme si tu vois un chameau, tu dis chameau. C'est un chameau. Mais ben toi, c'est vaurien. C'est pas grave. En plus, tu roules en Volvo, parce qu'on sait bien parce que tu le vaux. Tu vaux le veau qui est dedans. Tu vaux le veau, c'est pas grave. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle accepte ce qu'elle est. Elle comprend ce qu'elle est. Elle fonctionne avec ce qu'elle est. C'est ça la connaissance de soi. Après, maintenant, si tu donnes les moyens d'être la personne que tu es à l'intérieur, ça s'appelle le respect de soi. Maintenant, si toi, tu peux confirmer ta perpétuité d'existence dans la réalité, ça s'appelle la confiance en soi. Mais ça part toujours de la pointe du compas. Mais si tu n'as pas défini l'intérieur, comprenez ou non? Écoutez, j'ai de la peine, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je suis venu, mais je ne sais pas si c'était important. Ah, d'accord. Je me suis marié, mais enfin, était-ce vraiment lui? J'ai accouché, mais est-ce que ce sont mes enfants? Attendez, mais enfin, c'est quand même vous qui avez accouché. Oui, mais vous savez, il se passe tellement de choses dans les cliniques. Pourquoi? Parce que tu as perdu la pointe du compas, qui est invisible. Et c'est ça le vrai moussard, Rabotaï, c'est ça. Rechercher, rechercher, rechercher. Tu ne veux pas copier le Misset Echarim. Je vous donne la règle. Vous prenez un texte, n'importe lequel, Misset Echarim, ou Pirkei Avot, ou même une Gemara. Vous analysez bien ce qui est marqué dans le texte. Parce que même les gens, des fois, ils ne savent pas faire du moussard. Vous analysez bien ce qui est marqué dans le texte. Vous l'avez bien compris, vous l'avez décortiqué, démonté. Ouais. Après, vous établissez la distance qui existe entre ce que le texte y dit et vous. D'accord? Après, vous essayez d'établir un programme, c'est-à-dire les kabbalot qui seront nécessaires pour arriver à atteindre ce résultat. Maintenant, il faut calculer les marches parce que ça dépend, il faut des grandes marches, des petites marches. Et après, vous le mettez en application. C'est ça le moussard. Maintenant, si quelqu'un il fait juste des copier-coller entre des chazals et sa tête, ça veut dire qu'il sait ce qu'il faut dire, il sait ce qu'il faut penser, mais ça ne veut pas dire qu'il le pense. Donc, comme il ne le pense pas, il ne l'est pas devenu. Comme il ne l'est pas devenu, il ne l'est pas. Maintenant, ce qu'on transmet dans la vie, ce n'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est tellement important chez nous. C'est ce qu'on est. Après, quand tu meurs, c'est pareil. Ce qui va là-haut, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Alors, qu'est-ce que tu es? Je suis un disque dur avec plein, plein de connaissances. Ça s'efface. Ah. Je fais un calva homer. C'est un calva homer extraordinaire. C'est à la fin de la Amida. avant de dire Yoli Ratson, on dit un pasouk. Le Ben Israël, il dit pourquoi on dit ce pasouk? Il faut dire un pasouk qui commence par la première lettre de ton prénom et qui se termine par la dernière lettre de ton prénom. Bon. Et là-bas, le Ben Israël, il dit pourquoi? Parce que c'est une ségoula pour que le jour du jugement, quand tu arrives là-haut à 120 ans, tu te rappelles de ton nom. Moi, j'étais barreau, je me rappelle, je disais, mais quand même, le type, s'il y a un truc que tu te rappelles, c'est ton nom, ton numéro de compte, ton numéro de téléphone, qui t'a épousé. Tu peux avoir des pertes de mémoire, des fois, ça arrive. Ça. Mais comment un type, il va oublier son nom? Alors, j'ai fait un calva homer. J'ai dit, si déjà un type, il a besoin d'une ségoula, que trois fois par jour, depuis sa bar mitzvah jusqu'à sa mort, il va dire un pasouk pour que le jour de du jugement, il va se rappeler de son nom, parce que le jugement ne peut pas commencer, tu arrives, tu dis, comment tu t'appelles? Oh, j'ai un trou. Alors bon Dieu dit, bon, on va juger qui? Bah écoutez, franchement, je ne vois pas, je ne peux pas voir par code, ou mon mot de passe, il n'y a pas. Donc on fait un calva hamor. Si déjà un type, pour se rappeler de son nom qui est la chose la plus connue pour lui, il a besoin de faire une ségoula trois fois par jour depuis sa bar mitzvah jusqu'à sa mort, calva homer, quelle ségoula il va faire pour se rappeler de la Torah qu'il a appris? Wow. J'ai posé cette question à l'époque à Rav Eman. Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, ouais, bon. Mais moi, ça me travaille. Je dis, attends, mais pour chaque truc qu'il faut se rappeler, tu vas faire une ségoula? Je dis, c'est très simple. C'est marqué Ashre Miche Balekan Ve Talmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire au Lamaba, Ve Talmudo Beyado. Alors, Talmudo Beyado, le sens le plus simple, c'est que quelqu'un, il connaît par cœur, il a appris, il a révisé, il connaît, on va l'interroger, il connaît. Mais le Rabbi Nouchalanel, là-bas, il donne une explication. Il dit Talmudo Beyado, c'est Beyado. Ça veut dire qu'il est devenu ce qu'il a appris. C'est pour ça quand un Chacham il meurt, on dit, on l'enterre avec un Sefer Torah, on dit Kiyemze Mashekatouf Bazé. C'est-à-dire, ce monsieur, il est devenu un Sefer Torah vivant. Maintenant, le Sefer Torah, il n'a pas besoin de se rappeler, puisque c'est écrit. Ça va? Donc, les choses qui sont importantes, on n'a pas de problème de mémoire. Le problème, c'est est-ce qu'on arrive à vivre de manière importante tout ce qui est important? Vous comprenez ou non? Vous savez, j'ai oublié. Comment tu peux oublier? Tu n'oublies pas ce qui est important. Donc, ce que tu oublies, c'est ce qui n'est pas important. Tu dis, mais j'oublie tout. Ben, rien n'est important. Or, l'importance que tu donnes aux choses, c'est le lien. Le lien vient d'où? Le lien vient de la conscience. Or, c'est bizarre. Le type, il se rappelle des repas de la maternelle quand il avait 2 ans à Casablanca. Mais il ne se rappelle pas ce qu'il a mangé à midi. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Oh, c'est grave. Qu'est-ce que tu as étudié ce matin? Attendez, dans quel Gemara? Ketuvot, le Daf, Gimel. Oh, ça parle de quoi? Oh là là, attends, je l'ai au bout de la. Moi, j'adore quand les gens me demandent. À la fin des cours, ils veulent des brachot. Ah, je dis, bon, allez, Dieu m'a pour ta femme, oui, de Myriam, et Bat, le nom de ta belle-mère. Je dis, mais enfin, tu pries tous les jours pour elle, au moins pour qu'elle. Oui, je l'ai pas dit, hein. C'est grave. Non, parce que les gens me disent, pourquoi vous faites toujours des blagues sur les belles-mères? J'ai essayé sur les beaux-pères, ça ne marche pas. Personne ne rigole. Il dirait qu'il y a quelque chose dans la belle-mère. Enfin, on ne va pas approfondir le... Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'une personne, en fin de compte, elle n'est que sa conscience. Or, sa conscience, justement, on a dit que la pointe du compas. Et c'est ça qui va définir tout le reste. D'accord? Alors, on est en train de parler de quoi? Nous, on est en train de parler de Rosek Bamitzvah. On a dit Osek Bamitzvah, c'est quoi? C'est aussi dans la Mahashava. La Mahashava, c'est quoi? C'est la pointe qui va être le déclenchement du reste. Donc en fait, tout acte contient 3 couches. Une couche intérieure qui s'appelle la pensée. On a compris maintenant, ça veut dire que ce n'est pas simplement, encore une fois, d'avoir des arcs électriques établis entre les neurones. Ce n'est pas d'avoir des schémas d'idées, ce n'est pas seulement de réfléchir, vous avez compris? C'est que c'est vraiment à l'intérieur. Même quelqu'un, quand tu lui dis est-ce que tu réfléchis? Le type dit, écoutez, je ne suis pas un miroir. Mais c'est un vrai problème. Parce que quand vous vous regardez dans un miroir, pourquoi vous voyez dans le miroir? Tu m'en fais écouter, le miroir réfléchit. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que la lumière, elle rebondit sur moi. Ensuite, elle va dans le miroir. Après le miroir, par la feuille de métal qui est au fond, elle me renvoie cette lumière au fond de la rétine. Oui? Et c'est l'image qui réfléchit sur le miroir qui se réfléchit dans ma rétine. Donc, on va dire que le monde intérieur, c'est la rétine, le monde extérieur, c'est la réalité. Quand tu réfléchis, c'est que tu as une perception intérieure du monde extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas. Ils vivent au premier degré. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déposer les gosses, il faut faire un truc, il faut faire manger, il faut payer de l'argent, il faut truquer, bon, faut faire un enfant, il faut aller aux allocs, faut... Je dis non, mais viens, on va réfléchir. Écoute, ça commence par là. Ça me saoule, ça me prend la tête, j'ai pas le temps, j'ai pas... Attends, mais il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut que tu me donnes la perception intérieure, il faut que tu me donnes ta perception intérieure de la réalité. Si tu réfléchis jamais, tu n'as pas une perception intérieure de la réalité. Donc au niveau de la pointe du cercle, il n'y a pas de réalité. Il y a des gens comme ça qui vivent comme des machines. Comme une femme comme ça, elle est venue à la fin d'une conférence, elle vit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Elle dit, je me lève, je pleure, je dors, je pleure, je me réveille, je pleure, je crie, je pleure. Même quand je chante, je pleure. Je n'avais pas le temps, il y avait beaucoup de monde. Je dis, écoutez, madame, je vous pose une question. Pourquoi vous vous levez le matin? Elle dit, écoutez, je prépare les goûters pour les enfants, je les amène à l'école. Après, je reviens, je repasse les chemises de mon mari, je prépare mon shabbat, j'attends les enfants, ils arrivent, je les accueille. Bon, je dis, d'accord. Mais pourquoi vous vous levez le matin? Je viens de vous dire, j'accompagne à l'école, je fais mes goûters, je repasse. Non mais pourquoi vous vous levez? Pourquoi vous vous levez, vous? Elle dit, écoutez, je ne comprends pas votre question. Je dis, moi, je vous parle de vous. Vous, vous me décrivez une imprimante. Une imprimante, ça imprime. Puis un jour, il n'y a plus d'encre. Parce que vous savez, une imprimante, tant qu'il y a de l'encre, ça marche du tonnerre. D'accord? Mais... Et un jour, il n'y a plus d'encre. Alors, l'imprimante, elle imprime, vous y cliquez, tac, elle imprime. C'est extraordinaire, vous avez l'ordinateur. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir l'imprimante. Tu cliques sur l'onglet, le petit dessin de l'imprimante. C'est pour les handicapés. Tac, tu cliques et ça démarre. Ça imprime. Super. Donc, toi, tu es une imprimante. Tu imprimes tant qu'il y a de l'encre. Et un jour, tu arrêtes d'imprimer. Alors, c'est l'imprimante, elle imprime. Et puis un jour, elle déprime. Bah oui. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus d'encre. C'est pour ça que vous déprimez. Elle me dit, mais alors? Est-ce qu'il faut que je change de cartouche? De cartouche? Bon, parce qu'elle est aidée par une antillaise. Bon, c'est un truc compliqué, d'accord. Je dis, mais non, madame. Mais non, il faut... Ça, c'est Pirouche Rachid sur la blague. Ça. D'accord. Je dis, c'est très simple, madame. Il faut arrêter d'être une imprimante. Il faut que vous soyez une personne à part entière, ouais, qui s'occupe de ses enfants, qui repasse les chemises de son mari, qui fait des choses pour elle. Mais c'est une personne qui fait. C'est pas une imprimante. Vous comprenez ou non? C'est ça le problème. C'est que cette personne-là, il a déjà renoncé à la pointe du compas. Or, la pointe du compas, il faut la nourrir. Si vous ne la nourrissez plus, elle s'épuise. Pour les gens, ils disent dépression, perte de vitalité, perte de repères, recherche, malaise existentiel... remise en cause totale. Mais c'est très simple. Qui c'est qui régénère? Comment vous faites? Même les voitures, elles font le plein. Comprenez ou non? Même les voitures, elles font le plein. Alors vous, quand est-ce que vous faites le plein? Oh, vous savez, je suis rien. Je suis là pour mes enfants, je suis là pour moi, je suis là pour mourir. Eh ben... Non. Tu es une personne à part entière qui, à part ça... un rôle à jouer. Regardez, c'est comme un arbre, c'est un arbre. Il y a le tronc, et il y a les branches. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Regardez, il y a le tronc et les branches. Donc les branches, c'est quoi? Eh ben, c'est votre rôle d'homme, votre rôle d'époux, votre rôle de patron, de responsable truc, votre rôle de responsable communautaire. On a plein de rôles à jouer. C'est les branches qu'on porte. La branche, c'est quoi? Le tronc, c'est le moi. C'est la personne qui nourrit tout le reste. C'est ça le cœur. C'est ce qui nourrit. Maintenant, il y a des gens, ils trichent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent l'un avec l'autre. Moi, par exemple, je suis mal dans mon travail, mais c'est pas grave, je suis bien avec ma femme. Je suis mal avec ma femme, mais je suis bien avec mes enfants. Je suis mal avec mes enfants, mais je suis bien avec mon mari. Je suis mal avec mon mari, je suis bien avec mon travail. Oh là, tu crois qu'une branche, elle nourrit l'autre? C'est celle-là qui nourrit les autres. C'est pour ça que le bon Dieu, il a fait un truc extraordinaire. C'est que vous avez remarqué que la taille du tronc augmente au fur et à mesure que le poids des branches augmente. Quand vous plantez un arbre, il est petit comme ça, il y a une branche, deux branches comme ça, hop, vous l'achetez chez les trucs, il pousse. Après, il augmente, plus de branches, et le tronc, il augmente. Maintenant, si les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les branches, mais ils n'augmentent pas le tronc. Ben, il va craquer, le tronc va craquer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, bah, faut couper des branches. Bah, il y a des branches qu'on peut couper. Il y a des branches qu'on ne peut pas couper. Soit tu les as épousées, tu les as accouchées. Tu peux pas les couper. Non, il y a des fois, ils mettent à l'oser. Parce qu'ils peuvent plus, ils peuvent plus porter le poids. Ou alors, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes le tronc. Le travail sur soi, la connaissance de soi, la réalisation personnelle, la joie de vivre, l'amour, l'amour d'Hachem, l'amour. Faire de la musculation positive. Tu es fort. Il faut être fort. La vie, elle n'est pas facile. Il faut être fort. Oh, vous savez, c'est pas grave. Attraper une maladie. Ah, des gens comme ça. Mais non, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas. Parce que là, ils ont peur. Mais ils le vivent, c'est pire. Ils le vivent. Comprenez ou non? Ils disent, si tu veux, ça ira bien, mais avec une voix du genre, cette année, je meurs. Comme ça. Si tu veux ça, ça va aller. Que tu aies pitié de nous. Non, c'est dangereux. Ouais. Il faut aller remplir le réservoir de la pointe du compas. Quand vous changez la cartouche, tu fais des choses qui te font plaisir, tu vas voir des gens, tu rencontres des gens positifs, tu construis des projets, tu finalises, tu existes, tu as un lien avec HM de plus en plus fort, tu développes ta conscience, ta maîtrise de soi, ta connaissance de toi. Tu dois être un bulldozer. Oh, on n'a pas le temps de s'occuper de nous, on est tellement occupé. Mais ça sert à rien. Comme une maman, une fois, qui était comme ça, qui était au bord de la... C'est une fille de famille, pourtant, mais elle était presque une fille halal. Elle était très... Je dis, écoutez, madame, il faut partir 2 semaines en vacances. Elle m'a dit, ah non, je peux pas. Je laisse ma mère, même pas les enfants babysit, j'ai peur. C'est la mère, déjà l'homme, là, les nouveaux. Alors, 2 semaines. Je dis, écoutez, madame, c'est ou 2 semaines en vacances, ou 2 ans en dépression. Qu'est-ce que vous croyez qui est pire pour vos enfants, à votre avis? Ils vont se remettre, 2 semaines d'absence. Mais qui sont collés, ils sont guardés. L'autocollant sur la jupe. Ouais. Mais ils vont survivre. Ils vont survivre. Ouais. Mais s'ils sont collés à une dépressive pendant 2 ans, ils voient une maman qui pleure toute la journée, ça va falloir à peu près 10 ans de karcher pour nettoyer ça. Dans la tête. Parce qu'ils diront, bah, c'est normal de pleurer. Hein. Ma mère, elle pleurait tout le temps. Mon père, il se plaignait tout le temps. Donc, ils vivent dans une ambiance où le tagine. Oui, Et quand il y a de la gine, il n'y a pas de plaisir. D'accord? Il est le contraire. On a dit, Osek Bar Mitzvah, c'est quoi? C'est 3 dimensions. Dimension physique, qu'au moment où tu vis ce que tu vis. Encore une fois, je sais que ça a l'air simple pour vous, mais vous verrez qu'en fin de compte, c'est un objectif à atteindre. Parce que maintenant, tu manges, il faut que tu manges. Moi, je voyage beaucoup. Enfin, j'arrive comme ça à Marseille, je ne sais pas. Un type, il me dit, écoutez, je ne pourrais pas vous voir après la conférence. Est-ce que je peux vous parler avant la conférence? Je dis, mais je dois manger. Je suis parti à midi, j'ai pas mangé, je vais manger. Il me dit, mais non, je vous parle pendant que vous mangez. Je dis, mais je vais manger maintenant. Si je mange pendant que tu parles, je vais manger assaisonné à ta ramma. Il m'a dit, je comprends pas. Mais je vais t'écouter. Tu vas me dire, voilà, quand j'étais petit, j'ai subi ça, et c'est difficile pour moi, et j'ai des malheurs, et ma vie, et personne ne me respecte. Et moi, je vais manger ça. Après, j'ai dit, c'est marrant, j'ai des brûlures. On dirait que ça a tourné. C'est lui qui a tourné. Il m'a tourné. Je dis, maintenant, je mange. Tu m'as écouté, c'est égoïste. Faire d'amis sur route nefesh. Écoute, j'ai 250 personnes qui m'attendent. Je dois leur donner de la simcha ou de l'arme. Je dis, tu viens après le cours. J'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, je peux t'écouter toute la nuit, Baba. Tu veux faire de la thérapie ou trouve un divan, même dehors. Ouais. Mais avant, j'ai besoin d'être fort. Parce que la force que j'ai, je vais leur donner. Si tu me la prends, toi, je vais leur donner quoi? Ton capital, tu dois le préserver. Tu es un père de famille. Si tu vois que les clients ils te prennent trop, tu peux leur dire stop, messieurs, je m'excuse. Je dois me préparer. Je vais rencontrer le but de ma vie. Là. Dans une demi-heure, je rentre chez moi. Je ne vais pas rentrer avec une tête de mort. Il y a les soucis, les angoisses et les impayés. Et tu rentres chez toi, tu dis ah. Et la mère, elle est là avec les enfants. Il arrive. Tous les enfants, ils font sur eux. La mère, elle allume des veilleuses. Elle dit pourvu que ce soir, ça se passe bien. Parce qu'il ne sait pas compartimenter, il ne sait pas. Il ne sait pas ça, c'est le travail. Rav Rotenberg, il disait, ta mallette de soucis, tu la laisses, quand tu viens au cours de Gemara, tu la laisses dehors. Quand tu rentres chez toi, tu la laisses à l'arrière du coffre dans la voiture. Laisse ta ramma dehors. Ouais. Les gens disent, mais pourquoi? Au contraire, vous savez, on est mariés, on partage tout. Moi, je vous donne un exemple qui est très clair, qui est un peu direct, mais enfin bon. Non, je fais toujours les blagues, j'ai fait un ton en dessous. À Mavdil, Ben... Torah et El Malé, donc je suis obligé. D'accord. Donc c'est... Pourquoi les toilettes, malgré qu'ils sont publiques, on y va seul? c'est marqué toilette publique. Vous rentrez, il y a une seule cuvette. Pourquoi il n'y en a pas quatre? Non, que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comme c'est que ce sont des règles de pudeur. Bon, bah, si tu veux, moi je veux bien, mais moi c'est juste par une question de cohérence. C'est marqué public, tu rentres, il y a. La salle de bain, c'est pareil. Tu rentres à la salle de bain, il y a quelqu'un qui vient avec toi, tu dis non, excusez-moi, je c'est occupé. Mais oh, au contraire, on va y aller à 5, on va y aller à 10, on va y aller à 20. C'est pas possible, c'est une salle de bain, c'est quand même un certain endroit d'intimité, une certaine pudeur. Mais regarde le rite douce que je vais te donner. Tu n'as pas remarqué que les endroits où tu dois te débarrasser de ce qui est crasseux en toi, tu n'invites pas les gens que tu aimes. Toi, c'est le contraire, toi. Toi, quand tu as une amma, tu dis, quand je vomis sur quelqu'un que j'aime, ça passe mieux. Tu vomis dans le lavabo. Vomis chez un professionnel, il est payé pour écouter ton vomi. Non. Gratuit et les gens qui m'aiment. Mais les gens que tu aimes, préserve-les. Laisse-les tranquilles. Parce que c'est eux qui te ressourcent. La femme, elle s'appelle Baït. Elle te ressource. Ton mari te ressource. T'as pas autre chose à pourrir. Mais prends un téléphone, fais un numéro au hasard et insulte. C'est pas une halakha. Hein, c'est... Et quand ton mari rentre, chérie, mon cœur, viens, on va travailler. Et toi, tu la vois, ma fleur, le but de ma vie. Non. Toi, tu prends ta main du travail, de l'angoisse, du métro, du stress que tu as, du harcèlement, du truc, et tu viens. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé gravement. Tu sais pourquoi? Et si tu vas dire, mais j'arrive pas. Rappelez-vous que ce qu'on fait par négligence, il n'y a pas de Tiat Ismaël. Il n'y a pas d'aide divine. Tout ce qu'on fait par négligence, il n'y a pas d'aide divine. Numéro 1. Numéro 2, ce que tu fais par négligence, c'est parce que tu ne veux pas le supporter. Sachez que si les souffrances sont de niveau 3, oui, sur l'échelle de Ramter, c'est l'échelle qui permet de mesurer l'arme. Bon, alors, si, bon, y a Richter, il y a Ramter, bon, c'est, faut sortir un petit peu sur l'Aïshiva, ouvrez vos yeux. Voilà. Donc, si tu as une souffrance de niveau 4 sur l'échelle de Ramter, sache que les conséquences, elles sont niveau 9. Donc si déjà tu n'as pas la maturité d'assumer la cause, tu crois que tu vas assumer la conséquence. Donc il vaut mieux assumer la cause. Il vaut mieux éteindre un mégot qu'un incendie de forêt. Je n'ai pas la tête, ce n'est pas mon problème. Écoute, c'est vrai que ce n'est pas toi qui as mis le mégot, mais il est devant toi, éteins-le. Tu dis non, chacun ses problèmes. Non mais ça se passe chez toi, hein. Vous êtes deux hein, quand même. Il y a une base, hein. Je ne veux pas t'insulter, ça s'appelle la solidarité. A priori, les enfants, vous ne les avez pas fait... Par Wi-Fi, vous les avez fait ensemble. Donc, vous les assumez ensemble. C'est pareil. La vie, c'est pareil. L'argent, c'est ensemble. C'est pas du « Oh, j'ai envie de dépenser. Oh, arrête de dépenser. J'ai envie de dépenser. Arrête de dépenser. » Écoute, chérie. On va s'acheter un bateau. On va l'appeler la galère. Et on sera dans la galère. Ah, mais c'est ton problème. Mon père, il m'a jamais restreint. Enfin, chérie, t'as 48 ans maintenant. La crise d'adolescence, c'est passé. Il y a un temps pour tout. Oui, ouais, tu me laisses pas vivre, tu m'étouffes. Mais je me bats pas avec toi, on est mariés. Si t'as un ennemi, trouve quelqu'un d'autre. Non, c'est des trucs bêtes. C'est simplement, c'est ça, Osek Bamizva. Osek Bamizva, ça veut dire je parle, d'accord? Je mange. Je suis marié. C'est Rosek Bamizwa. C'est fini maintenant. T'es marié maintenant. T'es marié. Là, t'es marié. C'est comme je dis, écoute, mais qu'est-ce qu'il raconte? Une heure et demie pour expliquer que. Mais c'est ça. Le secret de la réussite, c'est de vivre à 100%. C'est ça le problème. C'est que les gens, ils sont le corps ici, la tête là-bas. Oui. Ils ont les soucis ici. Ils ont un sourire ici, mais ils souffrent là-bas. Ils ont des problèmes ici. Ils ne s'assument pas là-bas. C'est une grave maladie. Ça s'appelle midi à 14h. Et c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on croit. Regardez par exemple, un type qui est en colère. J'adore, la langue française, elle est d'une richesse incroyable. Le type qui est en colère, qu'est-ce qu'il dit? Ou la femme qui est en colère. Elle dit, vous savez, tu m'as poussé à bout, j'étais hors de moi. J'adore ce mot. Même moi, je me le répète aux toilettes, ça me fait rigoler. Un jour, je fais ce petit sketch. Je dis, excusez-moi monsieur, quand vous êtes hors de vous, vous êtes où? Non, parce que quand vous êtes en vous, quand vous êtes là, je dis, vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là, vous êtes où? Ah, c'est vrai, tu dis, je suis hors de moi. Alors, attends. Tu ne sais pas à qui tu parles, là. Ouais. Ou alors les gens, tu disent, bon, tu sais, après une heure, j'ai retrouvé mes esprits. Bon, ils les avaient perdus. C'est pas possible. Ça veut dire que quelqu'un, je ne sais pas si vous comprenez, il a l'estomac dans les talons. Il est mal dans sa tête. Il ne sait pas où il en est. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne comprend pas ce qu'il ressent. Il ne sait pas d'où vient sa douleur. Il ne sait pas ce qu'il cherche au fond. D'accord ? Il ne sait pas s'il a pris la bonne décision. Regardez comment un homme, il est dispersé. On dirait un tas de farine. Et tu fais comme ça, tu fais. Il s'éparpille en particules. Oh, c'est pas ça. Rosek ma mitzvah, c'est que tu es 100% dedans. Maintenant, tu es là. Il y a ta Guémara devant toi. Le reste du monde, il est mort. Tu es avec ta femme. Le reste du monde, il est mort. Tu es avec ton fils. Le reste du monde, il est mort. Tu dis, enfin, c'est possible. Enfin, écoutez, si je suis capable de faire les deux, moi, je peux étudier avec mon fils et écouter le téléphone. Alors, écoute, mon fils. Déjà, la Guémara, elle a dit, Rosek ma mitzvah, pas tourmina mitzvah. Alors, on sait que ma mise va pas tourner la téléphone. Non, mais c'est évident. Les gens disent, non, ça n'a rien à voir. Écoutez, j'arrive à me concentrer sur deux choses en même temps. Mais tu n'as pas compris. On s'en contre-tape de la demi-heure que tu as pris le téléphone. Le problème, c'est que ton fils, il dit, c'est important le limoud, puisque mon père, il regarde ses emails en même temps qu'on fait la Mishnah. Donc, il va dire, qu'est-ce qui est important? L'email. Toi, tu comprends pas, toi? Parce que ne regarde pas ce que tu lui montres, regarde ce que lui voit. Et l'enfant, c'est une caméra numérique, 113 milliards de pixels, à absorption sélective. Le bien, il l'imprime tout de suite, le mal, il l'imprime tout de suite, et le bien, il faut répéter, replay. Tu fais une erreur, il s'en rappelle tout de suite. Tu mens une fois, il s'en rappelle. Mais la vérité, il faut lui répéter souvent pour qu'il s'en rappelle. C'est dur. Ça veut dire quoi? C'est que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'occuper physiquement. C'est ça, Osek Bamizva. Maintenant, la Torah, elle a dit Patour. Alors toi, tu crois que Patour, ça veut dire, ben, écoutez, c'est pas grave, si je peux faire les deux, je peux faire les deux. Non, 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 le Ritva, il explique, le Ran, tout le monde explique. Patour, ça veut dire Assour. Osek Bamizva, Assour de faire la deuxième, Assour, c'est Assour. Tu m'en fais, Ravé Shalom, j'aime les Mizvot, je suis Haredi, si je peux en faire deux, si je peux en faire trois. Mais t'as rien compris ou quoi? Le bon Dieu, il t'a dit, quand t'es occupé à une Mizvot, t'as pas le droit de faire la deuxième, c'est interdit. Alors Loran, il explique, il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu fais la deuxième, c'est une mérida par rapport à la première. Maintenant, toi, t'es un soldat. Le colonel, il te dit, va pour faire cette mission. Après, toi, tu dis, bon, je vais en faire une autre. Et mais ça va pas, c'est désobéissance. C'est condamné à mort. Quand t'es occupé à une chose, t'as pas le droit de faire autre chose. Numéro un. Numéro deux, c'est bisayon. C'est bizayon, parce que quand tu fais une autre mitzvah, tu fais bizayon à la première. Qui t'a dit que tu as le droit? Si tu n'as pas encore commencé, il y a les deux devant toi, tu peux choisir. Mais si tu as commencé la mitzvah, tu n'as pas le droit de faire la deuxième. Alors qu'est-ce qu'elle t'a montré la Torah? Elle t'a montré la Torah que la meilleure manière de détruire une chose, oui, c'est d'arrêter de faire ce que tu es en train de faire. C'est comme quand tu as une boîte qui marche bien, tu dis je crée une deuxième. Pourquoi? Tu dis ben on va doubler les bénéfices. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Mais dans la première société, elle marche pourquoi? Parce que c'est toi la locomotive. Tu me dis, je comprends pas. Il y a des secrétaires, il y a un directeur commercial, il y a des produits, il y a des stocks et il y a des photocopieurs. C'est bon. Tu dis, mais baba, il manque la locomotive. La locomotive, c'est le fou qui motive. Locomotive, c'est lui. Il faut un fou. C'est le fou qui vient le matin, qui donne la pêche, qui prend les téléphones, qui dit, allez, on y va, qui regarde les bilans, qui prépare les plannings. Mais si tu dis, non, ça, j'ai mis un mec, je le paye 5000 euros, moi, je vais créer une autre boîte. Et la première, tu dis, c'est marrant, elle coule. Il manque la locomotive, le train. Il s'arrête, les wagons, il s'arrête. Qui c'est qui va tirer les wagons? Et c'est comme quand tu rentres à la maison. Tu as beau dire, bon, mais ma femme, elle fait tout, elle fait les devoirs, elle fait tout. Mais quand tu es là, tu vois bien que ça calme le jeu, là. Le père, il est là. La mère, elle est là. Ça change. Quand ta mère, ta femme, elle part une semaine, tu te dis, comment fou, comment je vais faire? Tu fais moins une liste, le petit, le truc, le cours du mardi, le mercredi, le truc, l'orthodontiste. L'autre. Tu deviens fou, tu vois qu'est-ce que ta femme, elle fait, t'as compris, c'est bien. Donc tu vois que tu ne peux pas te passer de ta femme et tu vois qu'elle ne peut pas se passer de toi. C'est très bien. C'est pour ça qu'on se marie à deux. Il y a des gens qui se marient tout seuls. Oui. Donc cette logique, c'est quoi? Ça s'appelle Osek. D'accord. Après Osek, on a dit c'est quoi? C'est le deuxième niveau. C'est que quand tu vas pour faire quelque chose, c'est que tu as compris que dans la vie, les gens qui ne veulent pas avoir des surprises, c'est des gens qui anticipent. Et c'est Ouchacham Aroetanolad. D'accord. La crise d'adolescence de ton fils, tu ne la prépares pas quand il a 13 ans et demi, tu la prépares quand il a 2 ans. À 2 ans déjà, s'il a un peu trop de spa, tu lui dis, oh, tu le calmes. S'il lève le ton, s'il manque de respect, s'il fait une crise, oh, déjà tu commences. Non, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Laisse-le grandir, il est petit, faut pas le traumatiser, ça lui fera du bien, laisse-le vivre. Et après, à 14 ans, tu appelles le rave, qu'est-ce que vous faites avec un enfant qui vous met une baffe à 14 ans? Tu dis, bah, si tu peux remettre le film à l'envers, c'est qu'un homme a deux grandes crises dans sa vie. Au niveau âge, c'est 14-18 et 39-45. Pourquoi vous rigolez? On ne va pas parler 39-45 parce que c'est un sujet à part. Mais 14-18, tout le monde comprend ça. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas 14-18 parce que l'enfant, avec la PlayStation, ça fait 14-23 parce qu'il y a 5 ans de décalage. Mais, au niveau maturité. Mais ça veut dire quoi? C'est que quand tu conçois un enfant avec ta femme, quand tu es sûr que ta femme est enceinte, tu sais que tu as 14 ans pour préparer la crise d'adolescence. Alors travaille. Tu dis, j'ai pas le temps, j'ai les soucis, j'ai les trucs. Après, tu dis, je comprends rien à ce gauche, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il attend de moi, il me pousse à bout, il m'énerve. Mais lui, il a son âge. Lui, un enfant à 14 ans, c'est normal qu'il a 14 ans. Je sais pas si vous... Non? Un enfant de 14 ans, c'est normal qu'il a 14 ans. La question, c'est pourquoi ses parents de 35 ans, ils ont 14 ans. C'est ça la question. Et s'il va dire au couteau, on peut pas avoir 14 ans à 35 ans. Moi, je vous donne un exemple. C'est comme si tu es en haut d'un immeuble de 30 étages. Et en bas de l'immeuble, tu vois un type qui gesticule comme ça. Et tu comprends pas ce qu'il fait. Il y a un type qui vient et tu dis, tu sais, le type qui est en bas, il est en train d'insulter ta mère. Mais des insultes vraiment très grossières. En vérité, ça te dérange pas. Pourquoi? Parce que tu entends même pas ce qu'il dit. Au pire, avec sérénité, tu prends un frigo, un frigo américain, une chose de hachouvlor, stam, comme ça. Mais tranquillement, pas avec les nerfs, ni avec l'envoi. Pourquoi? Parce que tu dis, mais enfin, il y a 30 étages qui nous séparent. Alors là, il y a 30 ans qui te séparent. Comment ça se fait que tu prends au premier degré? Ah, mais il m'énerve, il me pousse à bout, il me déçoit. Mais c'est son âge. Vous comprenez? Il a 8 ans. Oui, tu dois te prendre en main, tu dois assumer ton avenir, tu dois savoir ce que Dieu il attend de toi. Il a 8 ans. Toi, à 38 ans, tu n'as pas répondu encore à ces questions-là, tu veux que lui réponde. Mais je veux lui accélérer la maturité, je veux qu'il fasse des choix, je veux qu'il soit à la hauteur de son vécu, je veux qu'il s'assume. Il a 8 ans. Bon, il a 8 ans. Laisse-le kiffer. C'est toi, 38 ans, que tu dois être clair. Tu dois être clair. Ça, je vous avais dit à l'époque, ce qu'il avait dit le professeur Wallot aussi. Il avait dit, il est très important que les maîtres nageurs sachent nager. Vous vous rappelez de ça ou non? Non? Vous ne pouvez pas imaginer le niveau de traumatisme d'un type qui est en train de se noyer, et il y a un type à côté qui est en train de se débattre. Il dit, toi aussi, tu te noies? Il dit, non, moi, je suis le maître nageur. Là, l'angoisse, elle double par quatre. Là. Alors, les enfants aussi, il faut un calvachamor. Il dit, si déjà ceux qui sont censés m'apprendre à nager, ils sont en train de se noyer. Plus forte raison que moi, j'ai pas envie de devenir maître nageur. Donc, ils se mettent dans les jeux vidéo. Comme ça leur évite de rentrer dans la réalité. Donc, on doit leur donner envie de rentrer dans la réalité. Puisqu'on est dans la réalité. Mais si nous-mêmes, on fuit la réalité. Soit parce que on a des lectures qui nous permettent d'échapper, ou là des DVD, ou la DVD, ce qui va vous arriver. Oui. Ou alors parce qu'on fait simplement un transfert. De toute façon, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. De toute façon, tu n'es pas éduqué, tu ne comprends rien. Tu es comme ta mère, tu es comme ton père. On fait du transfert. On fait du transfert du fichier. Oui. Non. Chacun, il doit assumer ses 50%. En tant que père et en tant que mère. Ça va? C'est pareil maintenant. Maintenant, toi, dans la réalité, tu es le père et la situation, c'est l'enfant. Donc, tu assumes ta réalité. Des fois, la réalité, c'est le père et c'est toi qui dois changer. Donc, c'est le père et l'enfant, ou l'enfant et le père. Ça va? Il n'y a pas de différence. Parce qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut d'abord que tu éduques l'enfant qui est en toi. Donc, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu es au Sekhba Mitzvah à trois niveaux. Physiquement, tu es à 100% dans ce que tu fais. Par anticipation, déjà quand tu vas pour faire les choses, tu es aussi à 100%. Et à part ça, dans ta tête, elle est claire. Bon, il faut beaucoup étudier la Torah. C'est une mitzvah. Il faut aussi beaucoup étudier pour avoir la tête claire. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, je suis en pleine recherche, au niveau culturel, j'ai ouvert tous les plans, depuis le Pshat jusqu'à la Hassidout, en passant par la Kabbalah, la psychiatrie. Je dis non. Il faut être clair. Si tu n'es pas clair, comment tu vas faire? Les gens maintenant, ils veulent un GPS pour conduire, bientôt il faudra un GPS pour Shalom Bay. Dis-lui que tu l'aimes. Non. Dis-lui que tu l'aimes. Non. Ouais. Après, il faudra un GPS pour l'éducation. Mais c'est toi le GPS. Le bon Dieu, il t'a donné un da'at, il t'a donné un cerveau, il t'a donné une connaissance. On a le patrimoine le plus, on a la Torah, on a le patrimoine le plus riche de tout, on a tout. Ouais. Ça, moi, il faut travailler. Même des gens qui étudient, il m'a dit, mais enfin, Raph, je ne comprends pas, j'ai étudié les mêmes Gemarot, pourquoi j'arrive pas à la même conclusion? Je dis, mais c'est comme la pâte, plus tu la travailles, plus elle est bonne. Il faut travailler. Vous croyez que moi, je ne travaille pas mes midot? Moi, tous les jours, je travaille mes midot, tous les jours. Je ne vous dis pas pour ça pour vous dire, parce que tout le monde travaille les midot. Le plus grand rabbin du monde, il travaille ses midot, c'est normal, tout le monde travaille. Celui qui arrête de travailler, il est condamné. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est impossible. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est les trois niveaux. Bien, si on comprend ça, c'est-à-dire que là, on est là. Il nous reste ça, ça, ça et ça. Je peux vous le faire en MP32. C'est un format que j'ai créé. C'est très compressé. Ou sinon, je vous fais une petite conclusion gentille. Il y avait trop de tridouchim, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, c'est le bon Dieu qui a décidé de quoi on a parlé ce soir. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Vous avez compris, maintenant c'est ça, Osek Bamizva, Patour Namizva. On a compris pourquoi c'est marqué Patour. Maintenant, juste un Rashi qu'il faut comprendre. Sur place, Rashi dit une chose incroyable. Il dit Khatan, Tarin, Tirdan, Mizva. On avait dit qu'on apprend du Khatan le fait que quelqu'un qui est Osek Bamizva dans la tête, il est Patour d'une deuxième Mizva. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ve'ashmo inankra, le pasouk vient nous enseigner. De l'omechayev le asir d'artom y marchavat mitzvah rishona, qui n'est pas obligé d'enlever sa tête de la pensée de la première mitzvah, bishvil zo aba'alav, pour celle-ci, la deuxième qui se présente à lui. Et là, yaasok barishona, mais il doit être occupé, on a compris maintenant, ça veut dire yaasok, c'est entièrement, vous voyez ? C'est ça qu'on ne dit pas l'omet Torah, on dit rosek batora. Rosek, ça veut dire que t'es entier, de tes 100% dedans, kolat smota. Quand tu pries, t'es rosek batfila. Quand tu étudies, tu es au sec. Quand tu es avec ta femme, tu es au sec. Chaque fois que tu es au sec, tu es 100%. Ve'iten libo, regardez ce qu'il dit Rashi. Et là, il y a un sok barishona, mais il devra s'occuper de la première. Ve'iten libo liyot baki badavar. Et il donnera son cœur pour être spécialiste dans la chose. Bon, moi, j'ai traduit littéralement ve'iten libo, il donnera son cœur liyot baki badavar. Mais en vérité, ça veut dire qu'il mettra son attention, qu'il se concentrera pour, d'accord, en français. Mais quand même, les mots, ils ont un sens. Rashi, il ne parle pas pour n'importe quoi. Maintenant, ce Rashi-là, je l'ai vu au moins 1000 fois. Même, je ne l'ai pas vu, je l'ai répété, parce que je me servais de cette sugya pour accomplir la mitzvah d'ouvrir Techa Baderer. Donc, quand je marchais, je répétais la sugya, la Gemara, la Mishnah, le Ritba, le Ran, et le Rashi. Et à chaque fois, je disais, mais pourquoi Rashi, il a dit, « Ela yaasok ba... » Barishona, veiten libo liot baki badava. Il mettra son cœur pour être spécialiste de la chose. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit comme ça. C'est quoi un baki? C'est quoi un spécialiste? Je dis, ben, un spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît un domaine à fond. Celui-là, il est spécialiste d'immobilier. Celui-là, il est spécialiste de la tarte aux pommes. Celui-là, il est spécialiste de l'éducation. Chacun, il a une spécialité. Maintenant, quand toi, tu as besoin d'une question, tu vas voir un spécialiste. Maintenant, le spécialiste, lui, il a été formé par un spécialiste. Ce spécialiste qui a formé le spécialiste, il a été formé par un spécialiste. Le spécialiste qui a formé le spécialiste, qui a formé le spécialiste, il a été formé par un spécialiste. Mais dans un domaine, le premier spécialiste, qui c'est qui l'a formé? Alors, en vérité, le premier spécialiste dans un domaine, personne ne l'a formé. Il s'est formé tout seul. Mais quoi? Là, c'est marqué dans la Torah. Vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux Béné Israël de construire le Mishkan, c'était qui les Béné Israël? Eh bien, c'était des gens qui fabriquaient des briques. Parce que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ils font que ça. Ils ramassent des briques. D'ailleurs, un juif qui ne réussit pas, on dit qu'il ne casse pas des briques, pour vous dire. Ouais. Maintenant, fabriquer des briques, c'est le métier le plus simple du monde. Tu prends de la terre, donc des particules, comme un projet. Tu sens ici qu'il y a un projet. Tu réunis les particules avec le catalyseur de ta volonté. Tu mets de la paille dedans, c'est-à-dire quelque chose qui va structurer. Tu le mets dans un moule qui s'appelle une société et tu crées un produit qui s'appelle une brique. On ne fait que des briques, c'est tout ce qu'on fait. Après, tu enlèves le moule, tu attends que ça sèche, la brique existe. Super. Et quand ta boîte, elle a pris 100 millions, tu la vends. C'est facile. Maintenant, des gens qui ont fabriqué des briques toute leur vie. D'accord ? Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a dit maintenant, il faut fabriquer un Mishkan. Mais dans le Mishkan, il fallait fabriquer des tapisseries extrêmement élaborées. Parce que vous savez qu'il y avait la parochette, il y avait un rideau. D'un côté, il y avait un lion, de l'autre côté, il y avait un aigle. Mais vous, vous avez déjà fait un petit peu de la broderie ? Vous avez vu l'autre côté, comment il est moche ? Personne ne le montre, celui-là. Ouais. Mais là, il y avait un seul épaisseur. Et d'un côté, ça faisait un dessin. Donc ça veut dire que c'était une chorma incroyable. Super. Il a fallu des orfèvres. Il fallait fabriquer des objets en or. Imagine-toi, je viens, je dis, tiens, fais-moi un misbéar. Attends, même si on fait fondre de l'or, je ne sais même pas comment on fait pour le récupérer, comment on le met à plat, comment on le taille, comment on le polie, je sais pas. Mais c'était fabricant de briques. Imagine, on te dit, tiens, toi, tu vas tailler les diamants. Puis tailler des diamants avec quoi? Une masse, un marteau, une lime. C'est marqué Vayavou, Kol Ish, Ashernas ou Libo. C'est marqué dans Shemot là-bas, Perek Lamed Alef, Lamed E, excusez-moi. Ils sont venus tout homme qui avait élevé son cœur. Regardez ce qu'il dit le Ramban. Alachachamim arosim bemalacha marken. Le passage qui parle là-bas de tous les sages qui ont travaillé, tous les artisans qui ont travaillé pour la fabrication du Mishkan. Ki lo haya ba'em mishelamad et amelachot ha'ele mimelamed. Il n'y avait pas parmi eux des gens qui avaient appris le métier d'un enseignant. Omi sheyamen ba'em et yadav klal. Ou quelqu'un que lui-même, il serait à force de travail, un autodidacte, il se serait formé lui-même, il aurait fait un apprentissage personnel. Alors, comment ils ont fait pour faire ça? Regardez le mot du Ramban, ils sont effroyables. Je vous me dis si j'ai dépassé l'heure. J'ai 10 minutes là ou non? C'est vrai? Peut-être pas. Regardez ce qu'il dit. C'est très grave. Ce Ramban, je l'ai lu 1 million de fois, je ne l'ai pas remarqué. Regardez ce qu'il dit. Aval matza betivro sheyada la'asotken. Il a trouvé dans sa nature qu'il savait faire ça. Et attends, le type, d'où il sait? Je ne sais pas si vous me suivez. Le type, sa femme, elle accouche. Le SAMU ne vient pas, il est dans la montagne. Il va accoucher sa femme. Comment il va faire? Pendant la guerre, il y en a, ils ont fait des amputations. Tu dis, mais il n'est pas chirurgien. Il est obligé de le faire. Comment il a fait? Matza betivro, il a trouvé dans sa nature, à Vota, et là-bas, à la pointe du compas, à l'essence de la personne, il y a tout. Le problème, c'est que nous, on ne sait pas aller sonder l'intérieur. On n'a pas assez confiance en nous pour aller chercher au fond. Le type, il est médecin. Vous croyez qu'il parce qu'il a fait médecine? Mais non, il y a plein de gens qui font médecine, ils ne sont pas médecins. Mais il a fini médecine. C'est quoi un médecin? Un médecin, ce n'est pas quelqu'un qui a fait médecine. C'est quelqu'un qui a un bon diagnostic. Il y a des gens, ils font de la médecine à la mitraillette. D'accord? Tu dis, j'ai mal là, là et là. Il dit, bon, ça correspond à peu près à 40 tout cas. Donc, on va donner 64 médicaments. Il y en a 2 qui te soignent et 61 qui te tuent. Choisis ta mort. D'accord? Non, le médecin, il doit savoir, tu as ça, je te donne ça. Je sais pas, c'est pas grave, je vais t'envoyer chez quelqu'un d'autre. Alors, il y a une espèce d'instinct qui dans le diagnostic. C'est que Ravolbeu, il dit un chesed qui est complet, au bon moment, à la bonne personne, c'est Kim'at Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle sait très bien ce que l'autre il a. Le problème, c'est qu'il y a un abat-jour qui s'appelle l'orgueil et un abat-jour qui s'appelle le corps, les intérêts. Si quelqu'un il fait assez Messirut Nefesh pour enlever les 2 écrans, l'aneshama lui dit exactement ce que l'autre il a. Donc il faut qu'il réussisse à rester assez pur et assez en abnégation pour que sa aneshama puisse éclairer le problème que l'autre il a. Ça va? Ça c'est le médecin. Mais c'est pareil pour un spécialiste, c'est pareil pour un artiste, c'est pareil pour un rave. Il t'écoute maintenant, il ne faut pas qu'il tape à côté là. Il faut qu'il te donne la bonne. Des fois même la halakha, il te demande. Qui vous êtes, comment vous êtes, est-ce que vous avez un qui sous roche, il te pose parce qu'il y a une halakha comme ça, il dit, ah, tu me crois pas, la halakha, c'est pas la même pour tout le monde, c'est pas la même pour tout le monde. C'est pas la même. Et si Dieu veut, tu avances, il va donner une autre halakha. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve le Emet. Et le Emet, c'est ce qui est matim. Parce que le Rav Dessler, il dit un Emet qui n'est pas matim, c'est Kim Atashéker. Une vérité qui n'est pas adaptée à la personne, c'est un Shéker. C'est comme si toi, tu viens de faire, tu vois, il y a 2 jours, et tu apprends les halakhot du Harizal. Tu n'es pas adapté. Hier, tu étais goy. Ce matin, tu ne peux pas être baba salé. Tu dis, mais j'évolue très vite. Tu vas attendre un peu encore. C'est normal. Il dit, cette logique-là, c'est quoi? C'est que la personne, elle a à l'intérieur d'elle-même. Le problème, c'est est-ce qu'elle sait aller chercher? Maintenant, des fois, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui prennent le temps, et puis il y a des gens qui sont obligés. Toujours, je donne cet exemple.